Il fait chaud, non? Il fait chaud chez vous? Putain, j'ai regardé la météo ce matin, ça devait être chaud l'après-midi, frais ce matin, 8 degrés. Il fait pas 8 degrés là. C'est une café qui me donne chaud comme ça. C'est l'andropause. Non, non. Ah non, j'ai dit je vais enlever mon t-shirt. Non, je vais enlever mon sweat. Enfin, mon sweat. Il fait Ajaccio très doux ce matin. Oui, mais Ajaccio. Bien timé si c'est l'andropause? Pas faux. Il pleut? J'ai chaud, j'ai chaud. Je vais me mettre en t-shirt. Bougez pas. Ah, hier, super. Normal, hier, super. Mieux, mieux. Il fait chaud. 8 à Liège. Hein? Donc, je me dois à mon public. Je me recoiffe. Montpellier, le soleil se monte timidement. Comment va le maire Zérator de Montpellier? Pourquoi il y a les élections municipales à Montpellier alors que tout le monde sait qui est le maire? Bizarre. Ah, 8 degrés à Saint-Malo, je me caille le cul. Mais il fait chaud à Paris là, il fait chaud. J'ai la fenêtre ouverte là, je suis en t-shirt. Pas ce qui se passe. Quel cuir. Comment ça, quel cuir chevelu? Attends, fais voir, j'ai un mail là, à l'instant. Oh! Oh! Attends, je reçois un mail de mon invité qui ne peut pas venir dimanche. Dans ça me plaît. À l'instant, et la personne est trop adorable, elle s'excuse platement. Tu sens que la personne est super gênée. Et je vais tout de suite lui répondre. Tout de suite lui répondre pour qu'elle ne se sente pas stressée, parce que je sens que la personne, ça la stresse. Vous m'excusez, on va lui répondre. Pio va bien. Pio, c'est un bonheur. Pio, c'est une petite. Un petit. Une espèce de petite boule de bonheur. Il est tellement gentil. Il fait des. D'abord, il dort. D'abord, il dort. C'est notre premier enfant qui dort. Les deux premiers, il marche, mais il marche, mais ça y est, non, il est où? Il a trouvé un emploi surtout. Bah attends, il est quand même né il y a 7 jours. Non, non, il a trouvé un taf. Non, mais il dort. Nos deux premiers enfants ne dormaient pas. Il dormait pas, il dormait pas, c'était pas des dormeurs. Donc voilà. Et là, celui-là, il dort. Il profite. Voilà. Il se nourrit bien. Il prend un poids psych de fou. Il me dépasse quasiment. Hein, parce qu'il est né, il a 50 cm. Je pense qu'il en a déjà fait un ou deux de plus. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de se rapprocher dangereusement de la taille de son père. Il fait des petits bruits. Tu sais, quand il dort, il fait des petits rêves, je pense. Il doit rêver de biberon ou je sais pas. Il fait. Ah, je le fais très mal. Il fait des petits bruits comme ça. Oui, dans son. Et il est. Oh. Voilà, donc, super. Alors, je vais répondre à notre ami, là, pour pas que la personne stresse. Hello. Je vous dis pas qui, parce que c'est une surprise. Qui est. Voilà. Je te réponds vite. Pour que tu ne. T'inquiète pas, avec un S peut-être, pas, ce n'est rien du tout, du tout. On organisera ce, ça me plaît. Du coup, ça me donne une idée pour dimanche soir. Pio, c'est son vrai nom ou un pseudo? Tu déconnes ou quoi? C'est quoi ton pseudo, toi? Attends. Quelqu'un me dit Pio, c'est un pseudo. Tu t'appelles Bunny 32? Non, non. Bunny 32, c'est un pseudo. Pio, c'est un des plus beaux prénoms ever, quoi. C'est dingue, ça. T'as donné du pseudo, moi. Bunny 32. Incroyable. Incroyable, ça. Non, mais. Ah, c'est pas mal ça. Bonjour Samuel, je vous écris de la part de notre association qui contient quelques malentendants. Serait-il possible d'activer les sous-titres? C'est une option toute simple dans OBS, ils m'ont demandé, et ainsi les viewers ont l'option. C'est-à-dire que les viewers peuvent mettre l'option. Oui, c'est italien, Pio. Pio, Padre Pio. C'est italien. Les viewers peuvent activer cette option? Je fais ça où? Ce n'est rien du tout, on est là, ça me plaît. Quand ce sera bien pour toi. Le petit carré CC en bas? Non mais moi pour l'activer. C'est pour vous ça. Hors taxe. Bon, il faut que j'aille voir où ça se passe. Hors taxe. Oui, je connais pas OBS. Merci hors taxe pour tes... Merci pour tes conseils. Question du streamer. Mais alors comment on active ça du coup votre histoire? C'est en bas. Non, mais ça c'est pour les viewers, mais pour le streamer. Ah mais je connais pas OBS. Merci hors taxe pour l'échange. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ah merci Spagada. Pour activer. Heureusement que t'es là. Pour activer les sous-titres dans OBS, utilise le plugin. Ah, il faut mettre un plugin. Via le menu outils. C'est où ça? Waouh. C'est où outils? Outils, ça fait penser à l'Iran, mais c'est autre chose. Et outils, c'est dans quel menu? Parce que outils en soi, c'est pas un menu d'OBS. Hein. Attends. J'ai avancé éventuellement. Faut les taper en live, les sous-titres? Hein. Écoute, ben écoute. Outils en haut, sur OBS. On parle pas de Twitch, on parle d'OBS, hein. On parle d'OBS, hein. Moi, je l'ai pas, moi. Ah, le truc là, ça y est, je l'ai. Ah, c'est là-haut? Ok. C'est bon, attends, j'y retourne. Tintintintintintin. Où est-ce que. Ok. Attends, déjà, je vais le prendre en photo. Comme si je rate aujourd'hui, j'y reviendrai. Ok, c'est parti. Plugin. Gestionnaire de plugin. Plugin, c'est pas un. Plugin, c'est pas un truc. Plugin, c'est pas un truc. C'est pas un moins de 18 ans, ça, les plugins? J'ai un doute. Je vais pas être ban pour ça? Alors, installed. Installed. Plugin. Close caption. Update. Browse. Alors, j'ai un truc. C'est vide. Browse. Vide. Installed. Vide. Update. Vide. Oh, ça marche du feu de Dieu, ça. Ah, sous-titre expérimental, je l'ai. Ok, j'y suis. Ok. Sélectionnez votre micro. Ok. On est en train de le faire en direct. Votre micro, alors. Merde, alors ça. Attends. Source audio. Audio du bureau. Mic. 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 Aux. C'est pas sûr. Pourquoi il me propose pas ma table de mixage? Parce que Mic Aux, en vrai, ça veut rien dire. Il faut qu'il aille chercher ma table de mixage, surtout. French. Fournisseur, ok. Je suis pas sûr de moi. Activé. Ok. Ok. Ah, mais si, t'as raison. Mic Aux, c'est ce qui module dans OBS. Je regarde, t'as raison. Voilà. Et normalement, je l'ai mis. Gestionnaire de plug. De plugin. Voilà. Sous-titre expérimental. C'est activé normalement. Mic Aux, French. Normalement, c'est activé. Alors peut-être que ce sera la prochaine session. Ça marche, mais ça traduit très mal, me dit. Ça fonctionne? Voilà. Ah, par contre, c'est décalé, ouais. La photo là. Ça fonctionne? Les sous-titres sont hautement expérimentaux. On fait des tests? On fait des tests? Ah, vous avez activé? Ok. Prout, prout, prout. Caca prout. Être expérimental sexuel activé. Ah oui, ça marche très bien, ouais. Ah ouais, ça marche super, ouais. C'est très expérimental. D'accord. En fait, je vais me faire ban avec votre truc. Les solides sont Clémenceau. Georges Clémenceau? Ok. Ah oui. Donc ça, oui. Encore un truc qui fait de l'argent public, ça, non? Bon, écoutez. Comme ça. Comme ça, vous pouvez l'activer. Je réponds à la personne de Simplay, ok? Oh! Solivage, toi, tu as le droit de passer MVP. Hein. Solivage vient d'écrire dans le chat. Je connais un rapporteur qui a utilisé les sous-titres comme preuve. Ça s'appelle une masterclass, ça. Ça s'appelle une masterclass. Ça s'appelle une masterclass. Ah, incroyable. Alors attendez, je réponds à mon invité de dimanche. Hello, je te réponds plus quand ce sera bien pour toi. Le plus important. J'espère que comme ça, la personne ne va pas s'inquiéter parce que la personne est trop mignonne. Elle dit ah, je peux pas venir dimanche, je suis tellement désolé et tout. On va lui enlever un petit poids. Enfin, un petit poids, pas les petits poids qui se mangent là. Un petit poids, quoi. Il y a Madame Gesmer qui vient de lâcher dans le chat. J'ai envie de faire caca de stress. J'ai pas le contexte là. Tiens-moi au courant. Voilà, prends. Bien soin de toi. J'espère à bientôt. Comme ça, la personne ne va pas stresser. J'espère à bientôt. Point d'exclamation. Mais merci pour la personne qui m'a proposé de mettre les sous-titres là. Ah, l'oncle Tom est chargé sous stress, c'est les sous-titres. Ah, c'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe, ouais. Oh là là, ça tombe bien bas la revue de presse là. Eh hey, Zouf, j'allais être grossier. Eh hey, Zouf, je t'emmerde. Pardon, excusez-moi. Les sous-titres, ça marche pas vraiment, ça veut rien dire. Oh, les pauvres gens qui vont écouter ma revue de presse. Ouais. Les sous-titres n'ont aucun sens. Il me semble qu'il y a des meilleurs outils de sous-titrage. C'est bien, c'est expérimental, un peu de rigolade, comme dit Firehunter. Il y a un autre plugin qui s'appelle Ultimatech. Ok. En PED, je te prends photo, je ferai ça plus tard. Ok, d'accord. Ok. Le ticket d'or de quoi? Ah, je sais pas du tout. Ça, je sais pas, Madame Gesmer. Alors, je réponds à la personne. Hello, je te réponds plus vite pour que tu ne t'inquiètes pas. C'est rien du tout. On organisera Simplay quand ce sera bien pour toi. Donc, il n'y aura pas de Simplay dimanche, vous avez compris. Sam. Voilà. Voilà, comme ça, la personne ne va pas stresser. Du coup, mais t'as fait le TikTok. Oh, Madame Gesmer. Alors là, ça postule que je comprends ce que je fais. Parce que j'ai fait une petite vidéo sur le ticket d'or en lien avec notre festival MVP qui est le 11 avril. Le festival MVP qui est le 11 avril. Et donc j'ai parlé d'un ticket d'or. Et Mme Gesmer me dit alors, comment ça marche le ticket d'or? Je lui dis bon, je sais pas, j'ai aucune idée. Et elle me dit mais c'est toi qui fais la vidéo. Je dis ça postule que je comprends de quoi je parle. Hein? Ah oui, ok. Alors quand vous m'entendez dire un truc, vous pensez que tout ça est pensé, c'est contrôlé, quoi. Mais je n'ai aucune idée de ce que je fais. Mais, merci pour les subs, mais je n'ai aucune idée de ce que je fais, mais de manière générale, au quotidien. Vous croyez quand je suis allé devant la commission de l'Assemblée nationale sur du zèle public, j'avais une idée de ce que je disais? Mais je prenais des mots au hasard. Fallait que ça sonne, quoi, une petite musique. Mais la revue de presse, c'est pareil. Mais ça fait 30 ans que je fonctionne comme ça. Merci, un chasseur sachant, pour le 8e mois. Merci, Arthur, pour le prime. Merci, Junior, pour le 4e mois. Merci, petite Pierre. Merci pour le petit Pio. Merci pour le soutien. Merci, Zim92. Merci, Blondie Blonda. Oh, joli. Il y a Pandy Blonda. Il y a Blondie Blonda. Blondie Blonda. Tintin, tintin, tintin. Merci, Blondie Blonda. Trop mignon. Merci Râleur. Merci Benji. Merci Coup de Dev. Vous êtes incroyable. Merci pour les soutiens. Merci Corallo Yamato. Incroyable. Blondie Blondin. Dis pas ça, Samuel, t'as un rapporteur qui prend note. Rien à foutre, il a qu'à me reconvoquer qu'on rigole un petit peu. Ça nous fera du content, ça nous fera des vidéos, ça nous fera des vues sur YouTube. Hein? Lui, il alignera les mensonges et moi, je contextualiserai. Les gens, ils aiment bien. Il y a les gens qui aiment bien les mensonges, puis il y a les gens qui aiment bien qu'on ça contextualise. Vous aimez plutôt qu'on ça contextualise. Et puis après, il y a les gens qui aiment bien les mensonges. Dans les deux cas, tout le monde est content. Qui me convoque, je suis chaud, moi. Je suis chaud bouillant, moi. Bonjour, j'ai du gasoil pas cher à vendre. Il y en a que ça intéresse. Demande Pimnet. Pop, pop, pop. On va en parler ce matin. Salut, Zouf. Tu vas donner des conseils à l'oncle pour passer sur Twitch? Non, pas trop. On essaye de préserver Twitch. On essaye de faire du contenu de qualité ici. Non, non, nous amenez pas les fous du bus sur Twitch. Ça ira. Il y a plutôt des gens de qualité globalement. En plus, il va se faire ban au bout de 10 minutes. Ouais, sur Kick, à la rigueur, ouais. Ouais. Charlie, si tu regardes, va sur Kick, c'est bien Kick. C'est comme, voilà, reste sur X. X, c'est ton truc. Et puis, et Kick aussi. Kick, c'est très bien pour toi. Hello, as-tu seulement des excuses concernant les mensonges sur X? Non, toujours pas. Mais je ne suis pas la première personnalité auditionnée à qui demande à Charles à l'oncle de corriger ses tweets mensongers. Je ne suis pas le premier. Et d'autres l'ont fait avant moi et il n'a jamais corrigé. Un mensonge, quand tu le laisses, ça finit par devenir une vérité. Un mensonge, quand tu le laisses, ça finit par devenir une vérité. Hein? Si tu le dément, pour le coup, c'est que tu as menti. Ouais. C'est pas grave. T'inquiète. Rendez-vous au premier virage. Merci pour vous 06. Merci pour le soutien. Donc, je viens d'apprendre que notre invité de Simplay dimanche, je vous avais... C'est de Trump, ça ne peut pas venir, finalement. Et du coup... Idée. Dimanche soir, c'est le premier tour des municipales. J'entends des gens hier qui annonçaient une super soirée. Pas Valo. Non. Une super soirée municipale, mais un truc de fou. Lui, il va faire un truc avec des invités et tout, donc... Franchement, faut aller voir. Moi, je peux peut-être faire un petit truc dans mon coin, tu vois. C'est un peu ma cam, quoi. Tu vois. Mais un truc chill, quoi. C'est-à-dire qu'on ira voir les... Tiens, bah voilà, on a la réponse de la personne qui devait venir dimanche. Oh, elle est super. Super. Comme ça, elle n'est pas inquiète. Et donc, on fait un petit stream genre de revue presse. On va voir les premiers articles qui tombent, etc. Hein? Je vais passer mon dimanche à tenir un bureau de vote. Bravo Choupi, début à 7h50 pour la fermeture des urnes. Attention, tu vas encore être accusé de faire de la propagande avec de l'argent public. Oh, il n'est pas un mensonge prêt. Merci Jazera. Eh ben, ça fera un mensonge de plus, on mettra dans la tirelire à mensonges. Hein? Si j'étais riche de 1 euro de plus à chaque fois que quelqu'un a dit un mensonge sur ce sujet, sur X, le réseau du Chétan depuis quelques semaines, je serais richissime. Moi aussi, me dit Zouf, assesseur de mon village, Pibrac 31, le village de Thibaut InShape. Oh, t'imagines, Thibaut InShape, il se présente au municipal. Ce serait incroyable. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, une petite soirée municipale, tout chill, actu? On lit les journaux. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? Vous en pensez quoi? Tu vois, on se pose. Tu vois, on peut lancer assez tôt, genre... Moi, je vois bien un truc à 17-18 heures et on lit les articles du week-end sur les municipales, les pré-shots, tu vois, les sondages, les machins, tu vois, les analyses, qu'est-ce que ça pourrait donner, tout, tu vois, revue de presse, Mathieu valide, Mathieu qui gère la chaîne YouTube. Eh, dis donc, Mathieu, ça cartonne la chaîne YouTube en ce moment, hein. Pop, 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 ça devient un YouTuber ici, hein. Voilà. Histoire de chasser le blues du dimanche soir, bah oui, c'est ça, on va parler du RN, ça va nous faire du bien. Hein, Mathieu, ça cartonne. Fais gaffe à la période de réserve. Oh bah non, moi je suis comme tous les médias, je peux parler des municipales. Oh, puis sur Twitch, de toute façon, c'est le Far West. Tiens, on va regarder ce que c'est la réserve électorale, vous avez raison. Réserve électorale. Période de réserve électorale. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. On n'a pas parlé d'en, on n'a pas le droit d'en parler avant 20h. Ouais. Mais à qui ça s'applique? Aux médias gérés par l'ARCOM? Tu vois? Tiens, site officiel, let's go. Pandi, panda, blondie, blanda. Qu'est-ce que la période de réserve électorale? Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars, je vous fais ma petite, je vous prends ma petite voix institutionnelle, ok? Tu peux enlever les sous-titres, s'il te plaît? Ah ben non, mais c'est toi qui peux les enlever, c'est faut enlever le petit CC là. Faut enlever le petit CC en bas à droite de l'écran là. C'est à vous de le faire. Je vous prends ma petite voix institutionnelle, ok? Dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, une période de réserve électorale est mise en place afin de garantir la neutralité de l'État et l'égalité de traitement entre les candidats. Conformément à la note du secrétariat général du ministère de l'Intérieur du 23 janvier 2025, les préfets et les sous-préfets doivent s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique susceptible de présenter un caractère préélectoral. Cette période de réserve s'applique du dimanche 22 février au dimanche 22 mars 2026 inclus. Certaines cérémonies nationales ou commémoratives prévues par la note du secrétaire général du ministère de l'Intérieur restent autorisées dans le strict respect du principe de neutralité de l'État. Bon, ça n'a aucun intérêt parce que ça, c'est manifestement uniquement pour les préfets, on s'en fout. C'est bizarre. C'est pas ça qu'on cherchait. Pap, 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 vie publique. Ok? Non, je m'abonne pas, et ça et l'autre. Le code électoral interdit aux collectivités publiques de mener des actions de propagande. Les collectivités publiques. Bon, je ne suis pas une collectivité publique. Ok. Elle concerne la communication des maires, des mairies. Bon, je ne suis pas une mairie. Voilà. Mais aussi les ministères. Je ne suis pas encore un ministère. Et établissements publics sous tutelle. Bon, ça ne marche pas non plus. Les autorités administratives indépendantes non plus. Elle concerne également la commande d'études ou de sondages. Non plus. Ok. Bon, il n'y a toujours pas. Donc là, c'est plutôt pour les. Quelles peuvent être les. Ouais, bon, non. Ok. Banque populaire. Bon, je vais essayer de trouver des sources. J'ai rien contre la Banque populaire, mais on essaie de trouver des sources les plus carrées possibles. Journaux. Carrément sur le site du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la propagande électorale, ça, c'est les affiches, tout ça ne concerne pas. Propagande. Propagande, bon, il y en a qui s'y connaissent, mais on va pas les nommer parce qu'ils savent déjà, on les connaît déjà. C'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Ouais, je vois pas bien le. Attends, peut-être pour les journalistes. Non, pas d'excuses, Firmiano. Pas de retrait des messages mensongers, mais je lâche pas l'affaire. Alors, bah, désolé, je trouve pas de règles sur ça, quoi. C'est peut-être pas le bon crible. Période de réserve électorale. C'est peut-être pas le bon crible. C'est pas la bonne expression, peut-être. C'est peut-être pas celle qui nous concerne. Ah, sur le site de l'Arcom, c'est pas con ça. Pas bête ça. Pas con ça. Pas con ça. Pas con ça. Femme dans les médias, impeccable. Nous connaître, actualité. Les relevés temps de parole, ça c'est autre chose. Tout autorisé. Yes, on veut bien. Dommage, dommage, c'était une bonne idée. Salut, impitoyable, joli pseudo. Femme dans les médias, l'obésité, nouvelle campagne de spoil sur le DAB+, les enfants, les choses là. Non, ça marche pas. Non, c'est ce qu'on va faire, on va faire crible, Arcom. Qu'est-ce qu'on pourrait taper pour trouver le bon crible? Réserve électorale? En train de se demander quelle est la réserve que les médias devraient respecter en matière de traitement de l'actualité des municipales juste avant l'élection. Pas un truc. Il n'y a pas un truc. Rien. 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 Il y a K.O. qui dit, en même temps, si tu vas lire des articles sont paru dans la presse, je vois pas où serait le problème, moi non plus. 48 heures de vendredi soir à dimanche 20h. Mais 48 heures? 48 heures de quoi? Tu vois? Droit de réserve, on n'a rien trouvé, mec. On est sur Google. On n'a rien trouvé. Ah, peut-être là. J'ai un article de Defri, de Mélenchon parisien. Alors, article L49 du code électoral. Merci Stormed, ça bosse. À partir de la veille du scrutin à 0 heure. La veille du scrutin à 0 heure. La veille du scrutin à 0 heure, je dirais donc samedi 0 heure. Je dis vendredi soir minuit, je dirais. Hein, on est d'accord. Il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication en public. Twitch, c'en est une. Tout message ayant le caractère de propagande électorale. Ah, ben on est bien. Ben alors, ben on fera pas de propagande. Hein? Comme cette chaîne n'est pas une chaîne militante, contrairement à ce que certains. Enfin, une personne affirme. Tout. Hein? Mais c'est quand si tu fais la promo, si tu fais la promotion d'une liste, ou si tu dis qu'il faut pas voter pour une autre liste. Ah bon, on est. Tu ne peux émettre aucun jugement de valeur durant ce temps-là, en gros. On est tranquille! On est tranquille alors! Hein? C'est plus une trêve électorale, ouais. Donc, bah, ça va alors. Bon, bah, on n'est pas dessus. Effectivement, il faut, bah, comme d'habitude. Ah, faut pas citer de sondage, peut-être. Faut pas citer de sondage. Est-ce qu'un sondage, c'est de la propagande électorale? Tu vois? Moi qui pensais être une chaîne communiste anarcho-fasciste, je suis déçu. Oui, mais pas ce week-end. Ce week-end, on le sera pas. Merci Bloodhorn 67, merci. Hound Doomsday Device, merci pour le message. Merci Bourbeau06. Sondage. Propagande et sondage ne doivent pas être mentionnés. Source! Source! Quelle est la source? Parce que les votants peuvent se faire influencer par les sondages. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que dans la revue de presse des bonnes nouvelles de samedi, on ne parlera pas des municipales. Ok. J'ai un lien de machin chose. Tu peux l'envoyer au Modo, s'il te plaît? Ok. Faut pas citer de sondage, alors. D'accord. Ok. On fera ça, alors. Ok. Quelqu'un me disait tout à l'heure dans le chat que. Ben le renifleur de PM dit c'est plutôt une histoire de trêve électorale que de réserve électorale. Voilà. Nouveau crible? Quelle communauté de goths. Ah, tu tapes trêve, t'arrives sur réserve. Qu'est-ce que la trêve électorale? Ouais, le JDD. 5 novembre 2020. Ah, quoique le JDD de 2020, c'était OK. C'était avant la prise de contrôle brutale d'un actionnaire qui s'est traduite par le départ de quasiment tous les journalistes de la rédaction. Mais 2020, c'est un peu vieux, quoi. On va faire, tu sais quoi, municipal, interdiction. Interdiction. Moi, je suis maniaque, hein, vous savez, c'est comme ça que je fais tout le temps, toujours vérifier les infos. Oui, mais propagande électorale, c'est pas très clair. Tu vois, l'article L48.2 du code électoral, plus de propagande électorale à partir de la fin de la campagne officielle, donc à partir de samedi. On est bien d'accord. Mais propagande électorale, c'est ça qu'il faut définir. Tu vois? Interdiction, propagande. T'as raison, on va taper ça par contre. Propagande électorale. Pas mal ça. Merci de machin chose. Normalement, il y a un modo qui a peut-être reçu le lien de machin chose. Ouais, mais tu vois, propagande, ça, il parle des candidats là. Ça ne nous intéresse pas. En gros, les candidats n'ont plus besoin de faire, n'ont plus le droit de faire campagne. Ah, peut-être là. Ah. Ah. Ok, on y est. Ok, pas mal, pas mal. À partir de la veille du scrutin à 0 h, donc c'est à samedi minuit. Vendredi soir minuit, quoi. Enfin, ça, vous avez compris. Dans la nuit de vendredi à samedi. Toute nouvelle action de propagande est proscrite. Ok, certains députés, vous avez compris? Il faut arrêter d'être militant comme ça, hein. Il devient interdit de distribuer tracts, bulletins ou circulaires, mais aussi de diffuser des messages de campagne par voie électronique. Les appels téléphoniques destinés à influencer les électeurs sont également prohibés. Tu n'appelles pas mamie pour lui dire de voter pour machin. Je vous vois, hein. Les petits malins, là. Dis donc, mamie, comment ça va? Oh, bah, dis donc, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. Oh, bah, c'était aux dernières élections, tiens. Oui, alors justement, mamie, à propos d'élections, je voulais te dire, tu sais pour qui tu votes? Bah, non, comme d'habitude. Alors, je vais te dire, hein? On vous voit, hein? Les manipulateurs. C'est interdit, ça. Laissez les grands-parents tranquilles. Donc, les appels téléphoniques destinés à influencer les électeurs sont également prohibés. La loi interdit en outre la révélation d'un élément nouveau de polémique électorale. Qu'est-ce qu'on appelle la polémique électorale? C'est-à-dire les débats, arguments échangés entre candidats lors d'une campagne, juste avant le vote. Par exemple, lire une interview de candidat juste avant le vote. Ça, je ne comptais pas le faire. Voilà. Ok. Média audiovisuel. Ah, média audiovisuel. C'est pour nous, ça. Ah, contrairement à d'autres scrutins, déjà les élections municipales ne donnent pas lieu à une campagne audiovisuelle officielle. La télévision et la radio occupent néanmoins une place centrale dans la communication politique. Pas un mot d'Internet, hein. Pas un mot d'Internet. L'autorité, donc l'ARCOM, est chargée de veiller au respect du pluralisme politique sur les chaînes de radio et de télé. Bougez pas. Alors, à partir de la veille du scrutin, samedi 0 h, me dit El Paraguayo, interdiction de diffuser tout message de propagande électorale, y compris sur Internet ou en live. Source, article L49, Code électoral français. OK? Article L49, le voici. Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents. À partir de la veille du scrutin 0 h, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale. Ben, c'est pas l'article que tu viens de lire? Tu parles de live, tu parles d'Internet, c'est pas du tout mentionné par l'article. Moi, je suis un petit peu, vous voyez, toujours un petit peu maniaque. T'as peut-être trouvé un article qui disait que cet article disait ça, mais l'article dit pas exactement ça, quoi. On est toujours autant dans le flou. Eh oui. Oui, tout message ayant un caractère de propagande électorale, y compris sur Internet, puisque c'est tout moyen de communication. Mais c'est quoi? Un message ayant un caractère de propagande électorale. C'est ça le débat. Eh oui, bande de chouchous. Eh oui. C'est la question qu'on est en train de se poser. Et donc, je reviens à l'article précédent. C'est quoi la propagande électorale? Donc, l'ARCOM, par exemple, exerce ce contrôle sur la radio et la télé. Internet, ça y est, on y arrive, vous voyez? En cherchant, on trouve toujours. Vous voyez, hein? C'est une leçon pour ceux qui ne travaillent pas leur dossier. Moi, je connais pas. Même il y a des élus même qui bossent pas comme ça sur certains sujets et qui. Et pourtant, c'est pas compliqué. Il suffit de passer un petit peu de temps et de chercher des bonnes sources, de qualité, de demander aux gens qui savent, quoi. Hein?
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Toi, par exemple, tu pourrais bosser avant de présenter des émissions. Alors, Internet et réseaux sociaux sur surveillance juridique. Les candidats peuvent recourir à Internet pour leur campagne en créant. C'est bon, on s'en fout. Ah putain, non, ça parle pas du week-end, ça. Pas très clair. Hey, les modos, vous n'auriez pas trouvé un article, un site clair qui parle de ce que doivent faire les créateurs de contenu, éventuellement les journalistes, sur Internet, le week-end du premier tour des municipales. Parce que là, on est dans l'interprétation, mais on n'est pas dans la clarté. Vachement intéressant. Merci Gwen. Selon le site du Conseil constitutionnel, s'agissant des sondages électoraux, leur publication, leur diffusion, leurs commentaires, par quelque moyen que ce soit, sont également interdits sur l'ensemble du territoire national la veille du scrutin. Donc les sondages, ça c'est OK. Ça on est bien d'accord. Ouais. Les sondages, on est bien d'accord. Ouais, donc je pense qu'il ne faut pas évoquer, donc dimanche soir, il ne faudrait pas évoquer de sondage, quoi. Ce qui me semble assez normal d'ailleurs. Parce que ça peut influencer sur le vote. Ouais. Merci Chassec. Avant 20h, avant 20h, oui, tout à fait. Mais des sondages, oui. Et puis, alors, de résultats encore moins. Hein. Vous savez, il y a des sites étrangers qui donnent toujours des pré-résultats là, avant 20h. Alors, ça c'est totalement interdit parce qu'il y a encore il y a des gens qui sont en train de voter. Il y a des gens qui sont en train de voter. Non, mais je dis dimanche soir parce que mon live, il est dimanche soir, de Roménou. Samedi, je ne vais pas me manquer avec les municipales. Hein. Puis, on aurait dit, moi, je serai en gaming. Hein. Donc, je vous parle de dimanche soir. C'est tout le week-end, mais je m'en garde le cul. Ouais, les fameux sites belges et suisses qui donnent les infos, ça, c'est interdit par en France, ça. Ouais. Il faut surtout pas parler des résultats avant 20h. Ça peut influencer les votes, les gens qui votent encore, notamment dans les grandes villes. Et les sondages, idem. Ça, c'est clair. Et je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, ok, c'est clair. Ah, merci Laurent. Laurine, pardon. Laurine des Neiges. Pendant cette période, les médias ne peuvent pas publier une interview d'un candidat appelant à voter pour lui. C'est normal, ouais, ça me semble. Tu vois, oui, en réfléchissant, on finit par trouver la cohérence et la logique de tout ça. Ouais, ça me semble normal. À quelques heures du scrutin, donner la parole de façon exclusive, par exemple, à un candidat appelant à voter pour lui, ouais. Donc, publier une interview d'un candidat appelant à voter pour lui, diffuser un édito ou une analyse qui favorise clairement un candidat. On vous voit, les médias, là, engagés, là, hein. Publier un nouveau contenu de campagne, relayer des messages de propagande sur les réseaux sociaux, les médias doivent donc éviter tout ce contenu susceptible d'influencer le vote. Moi, tu sais quoi, Laurine, moi je trouve que ton message il résume bien notre débat, je le prends en photo, je serai très cohérent. Ok. Maintenant qu'on a un cadre qui est assez clair, grâce à toutes vos participations, merci beaucoup, eh bien, je reviens à ma question. Si dimanche soir, on fait une petite soirée municipale un peu tranquillou, où on va lire des articles sur le sujet. Ça veut dire que si on commence avant 20h, eh ouais, il ne faut pas donner de matière qui serait susceptible d'orienter le vote de quelqu'un. Ouais. Matou, arrête de t'informer sur X là. Va bosser un petit peu sur l'info. Pour l'exclamation, debunk, Matou. Voilà, puis reviens avec des excuses. N'hésite pas. Merci pour la force que tu donnes à la chaîne. Oui, c'est toi la Matou 7X. Va bosser un petit peu. Voilà, faut pas te faire avoir par les fake news sur Internet. Ou d'élus militants. Qui te mentent, mon pauvre en plus. T'as roulé dans la farine. Est-ce que ces règles s'appliquent aux commentaires? Oui, un édito, ça peut Ça peut orienter un vote. Un édito, c'est ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire dimanche entre 18 et 20h alors? On va jouer à Valo. Vous savez quoi? Non, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas lancer à 17h, je vais lancer à 19h30. On fera une intro d'une demi-heure comme d'habitude, quoique là j'ai fait 45 minutes là. Waouh! On fera une intro. On fera une intro un petit bon. Un petit, un peu, voilà. Exactement. Ah, remarque, Trump nous aura sûrement sorti une dinguerie. Oui, remarque, oui. Salut Mélancos, tu verras, c'est un peu plus. Je dis Mélancos, l'info est un peu plus chill en ce moment. Vite fait, quoi. Ok. Bah oui, mais Camille, mon invité peut pas venir dans Ça me plaît dimanche, je viens de l'apprendre. Griffith, n'hésite pas à t'informer, mais vraiment, ne va pas t'informer sur les réseaux sociaux. Tu viens de te faire désinformer par des mensonges sur Internet. Point d'exclamation, debunk, ou va voir la presse, va voir les articles dans Le Monde, par exemple. Tu verras pour te réellement informer sur le sujet, quoi. Finir par emmener ça en justice, moi, je vais me faire un petit peu de beurre. Donc on va faire ça, ouais. Bon, la petite soirée municipale, ok? Mais chill, hein? 19h30, on se dit bonsoir, comment ça va? Comment était le week-end? Bap. Non, Griffith, pas debug. Non. Non, pas point d'exclamation, debug. Debunk. Alors, Griffith me dit ça fonctionne pas. Non. Pas debug, c'est-à-dire que ce n'est pas un lien pour débugger ton PC si t'as un problème avec Windows. Non, point d'exclamation debunk. C'est une vidéo où je debunk toutes les fausses informations sur le sujet. Ouais. Je ne répare pas les ordinateurs à distance. Les berlines allemandes à distance, par la pensée, je peux résoudre des petits problèmes d'électronique, mais pas les PC. Ouais. Debunk. Oh, Zenibam, est-ce que tu as des conseils pour accueillir un petit troisième? La famille s'agrandit bientôt et j'appréhende. Mais si t'en as déjà deux, t'as déjà le mode d'emploi. Tu sais déjà tout. Tu sais, c'est, plus t'en as, plus c'est facile. Bah, Maz, je commence à me poser la question en vrai. Sauf qu'un élu, il est protégé par l'immunité parlementaire. Donc, ce serait pas contre lui du coup. T'en as deux, tu connais déjà t'as le mode d'emploi. Le troisième, quatrième, cinquième, c'est t'es en roue libre. Tu fais comme les deux premiers. Non, en vrai, c'est plus facile. Ouais. Ok. Ah, quand même. Bon, quelqu'un me disait, mais t'as pas le visuel pour MVP? Demain, il y a MVP. Voilà. Ben, je les ai demandé, je les avais pas ce matin. Vous avez entendu le petit bing bing à l'instant? Ben, je viens de le recevoir. Ok, je vous le mets. Hop. Voilà. Je viens de le recevoir. Attends. Où est-ce que je vais vous mettre ça? MVP. Hop, 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 hop. Hop, invité MVP. Hop, je viens de le recevoir. À l'instant. Voilà. Voilà! Attendez, alors on va mettre MVP. Oh! Ça marche bien. Oh là là. Ça, c'est le MVP de demain. Voilà. Et ça, c'est l'invité MVP de demain. Voilà, parce que demain il y a MVP. Et la semaine prochaine, mercredi 18, demain c'est 11, il y a encore un MVP. Normalement c'est une fois tous les 15 jours, et puis là, comme on est sorti des vacances, on vous en met deux. Et effectivement, il y a une nouvelle DA, ouais, bah, je découvre, c'est, moi, ouais, c'est la nouvelle DA de MVP. Ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Donc, la petite bande. Viens par là, toi. La petite bande. de demain à partir de 10h. Non, pas ma vie pro, Pascal Pro. Non, pro, professionnel. Hein, MVP, c'est une émission qui te dit, voilà, t'es collégien, t'es lycéen, t'es étudiant, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, tu réfléchis à ton avenir pro. Voilà, ou tu travailles déjà, mais t'as envie de changer d'univers. Eh bien, MVP, c'est une émission qui parle de tout ça. Voilà. Donc là, on a Charlotte Vautier, qu'on adore, qui revient. On a Nico Mathieu et Ludovic B. Voilà. Donc ça, c'est notre petite bande de chroniqueurs pour demain. Voilà. Et il y a une émission aussi la semaine prochaine. Et puis, alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, je le connais. Notre invité MVP, celui à qui on va discuter de sa vie, de son œuvre. Je le mets à ma place. Demain, à partir de midi, eh bien, c'est Charlie Aide. Vous connaissez Charlie Aide ou pas? T'as une tache sur ton t-shirt, Samuel? Merde, j'ai un déjeuner de boulot après. Fais voir. C'est un mentaliste. Si je dis pas de bêtises. J'ai fait un truc avec lui une fois, il est vraiment sympa. Il est très sympa. J'ai une tache sur mon t-shirt? Ouais. Charlie Aide, c'est un mentaliste. J'ai un déjeuner de boulot après. Oui, oui, c'est du dentifrice. C'est pas du dentifrice, Sugar. C'est du dentifrice. C'est pas du dentifrice. C'est du dentifrice. Voilà. Ah, en ce moment, j'ai beaucoup de j'en ai beaucoup sur l'épaule. Mais ça, c'est Pio. Tu sais, quand tu mets le petit là, tu sais, quand tu mets le pio là, quand tu mets là, tu sais, après le bib, voilà, il est là. Puis de temps en temps, il fait un petit rototo, et puis après, tu l'enlèves, tu as une grosse traînée de lait là. Ça, c'est cool ça. Là ou là. Mais là, ça, c'est une dentifrice. Ça. Sam, il est tellement âgé qu'il se bave dessus. Ok, le Q13. Ouais, ok. Attends, c'est du propre. Ouais, c'est du propre. Eh ben, c'est du propre. Eh ben, c'est du propre. Eh ben c'est du propre. Il est pas bon mon MVP de demain? Il est pas bon mon MVP de demain? Vous vous rendez compte que vous êtes 3299, on n'a pas lu une seule info. On a fait 52 minutes d'intro, mais vous êtes des malades. On a fait 52 minutes d'intro. J'en ai aucune idée, Camille, j'ai oublié, j'ai écrit l'émission cet après-midi. C'est qui, Pio? T'as eu le troisième enfant? Mais oui! Il y a 7 jours, il est né le 3 mars. Poulidor me dit, j'attends les infos sur le carburant, 52 minutes de Sam qui parle de sa bave. Ouais. Un joli propos liminaire. Moi j'aime les propos liminaires. Parce que moi aussi je peux contextualiser. Et donc voilà, on a un beau MVP demain. Oui, j'ai un troisième enfant. Depuis une semaine. Oh, c'est le plus beau. Il est beau. Et tout le monde me dit qu'il me ressemble. Tous les gens qui l'ont vu m'ont dit « Oh, c'est incroyable, il te ressemble !» Alors que les deux premiers, ils ressemblaient beaucoup à leur maman. C'est quoi le sondage? Est-ce que la salive est un bon détachant? Selon ma grand-mère, oui. Oui, source Facebook, non, je change de t-shirt. Okay. Et tout le monde, sans se concerter, des gens très différents ont dit « Oh, c'est incroyable, il te ressemble trop, quoi. Trois garçons à la maison. Ça va se bagarrer? Non, ça se bagarre pas trop. Il est aussi petit que toi? Bah, il est né, il faisait 50 cm. Autant dire qu'il est pas très loin de me dépasser déjà. Ouais. C'est le bonheur. Ouais, putain, 54 minutes d'intro, vous êtes des psychopathes. 54 minutes d'intro, on va aller bosser un peu. Hein. Les deux autres, ils ont 9 et 6 ans. Fait 9, 6, 0. Tu prends pas ton congé paternité? Bah si, moi je suis en vacances là. Salut Nanas. Je suis sur Twitch. Oh, c'est chez moi le WhatsApp. Bon, je ferme la WhatsApp parce que sinon vous avez pensé que c'est pour chez vous. Non, je suis en vacances moi là. Je suis sur Twitch. Ça fait 5 ans moi que je suis en vacances. C'est la vie d'Aloquin, hein. C'est ça ton méga projet? Bah oui, c'est ça mon méga projet. Bien sûr que c'était ça le méga projet. Merci Moulbit. Merci Sanguin. Merci Isha Bod Warrior. Merci Jasek. Merci Djouboul. Merci Bloodhorn67. Eh Djouboul, j'ai pas compris ton message. Merci beaucoup. Oh, Laster, arrête. On rappelle encore en 2026 que streamer n'est pas un travail. Merci. Non, mais bien sûr que c'est un travail, mais c'est un travail cool, quoi. C'est un travail cool. Il s'appelle comment? Il s'appelle Pio. Pio comme Padre Pio. Ça veut dire pio en italien. Pio. Enfin, Pio, quoi. Merci, oh non, pas lui. Je reconnais un Sam qui veut atteindre l'heure d'intro. Non, non, pas du tout. Mais je sais pas, ce matin, on est bavard. Non, on a passé une demi-heure sur le code électoral, là. Comme Pio Marmaille, ouais. Normal, Pio Marmaille, la Marmaille, c'est les enfants. Attends, je viens de percuter. Pio Marmaille, la Marmaille, c'est les enfants. C'est un vieux mot pour dire les enfants. Et donc que mon enfant s'appelle Pio. C'est normal. Ouais. Il est né quand? Il est né il y a une semaine, il est le 7 mars à 12h40. À 11h30, j'étais en live en matinée Étienne, en revue de presse, j'ai dit, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui s'appelle mon épouse, voilà, qui m'a dit, bon, bah maintenant, c'est maintenant, voilà, et 1h10 plus tard, l'enfant naissait. Ta-da! Après le cut. Drôle de nom, ça? Ton pseudo, c'est Ib Tua. Ton pseudo, c'est Ib Tua avec deux T. Eh ben, tu peux m'en donner des leçons de prénom, toi. Magnifique. J'arrive toujours pas à savoir si c'est un troll ou c'est un vrai. T'as une vidéo, je voulais montrer, je voulais montrer l'enfant. On a fait un stream samedi fin de journée. Vous l'avez en replay sur YouTube. Bon, bah attends, je vais vous faire un point d'exclamation Pio dans le chat. Je vais vous faire un. J'avais pas mis de bot. T'as montré une vidéo de l'accouchement? Mais non! Je voulais amener ici, le petit chouchou. Je voulais amener ici. Je voulais pas montrer son visage parce qu'on montre pas le visage des enfants, on les protège, mais je deviens papa, voilà! Elle est là, la vidéo. Ça, c'est une pub pour Air France. Mais le poids et la taille, et tu veux pas son nombre de doigts aussi? 50 cm, 3 kg 2. Voilà. Théma. C'est pas beau, ça? Il est là? Il est là, petit chouchou. Voilà. Alors, on monte pas sa tête, hein. On monte pas sa tête. Il est là. Et à un moment, on voit sa petite main. Elle est où, sa petite main? C'est magnifique, les mains d'enfant. Les toutes petites mains. Où est-ce qu'il est? Là, on voit sa petite main qui sort, regardez. Il a une petite main. Regardez sa petite main qui sort. Oh, regarde la petite main, il essaie de choper mon casque. Regarde la petite main qui vient de sortir, là. Regarde les petits doigts. Ils bougent. Oh. Quel kiff. C'est vrai qu'il me ressemble. Ah. Vous avez pas vu la vidéo? Quand même. Je vais vous mettre un bot. T'es devenu grand-père, Samuel? Mais je t'emmerde, nonobstant. Je t'emmerde. T'en es du grand-père, moi. Soir, commence à te battre, j'arrive. Je fais une revue de presse et je viens te rejoindre dans la cour. Je vais te maraver, moi. Alors, commande. Pio. New commande. Point d'exclamation. Pio. Le replay de l'annonce de mon plus beau projet depuis 6 ans. Pourquoi depuis 6 ans? Parce que le deuxième a 6 ans. La naissance de mon... Oh, merci, Les Brocoli, pour les 5 abonnements offerts à la commu. Merci beaucoup. De mon troisième enfant. Pio. Voilà, le replay de l'annonce de mon plus beau projet depuis 6 ans, la naissance de mon troisième enfant, Pio. Create. Point d'exclamation Pio, vous l'avez. La maman va très très bien, Alice, merci. Elle est en pleine forme. Ah non, c'était pas un prank, c'est une vraie histoire. 1h01 d'intro. On n'a pas lu un article. On n'a pas lu un seul article. On a lancé ce live il y a 1h01. On n'a pas donné une info. Voilà. C'est indigne.
Quelle indignité.
Voilà. Je ne comprends pas. Mais comment pouvez-vous faire ça? Moi, je viens ici avec des infos. Je viens vous pour raconter l'histoire d'infos. Et vous m'interrompez. Et vous me posez. Merci Fabricaton pour les 5 abonnements sur la commune. Merci beaucoup. Et vous m'interrompez. Vous me posez des questions. Et en plus sur le service public avec de l'argent public. Merci nonobstant. Voilà. Et vous me posez des questions. Mais oui, c'est fou ces viewers là. Mais oui.
Mais c'est insupportable. Voilà. Enfin votre attitude.
Mais oui.
Mais enfin ça va pas.
Voilà.
Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas!
Dis-leur, Pascal! Dis-leur! C'est honteux ce que vous faites! Hein. Moi, je viens avec des infos. Et là, et le code électoral. Et puis, alors là, est-ce que l'essence va augmenter? Mais alors, c'était pas un prank, t'as vraiment un troisième enfant, mais pour toi, t'as 95 ans, mais tu vas mourir. Voilà. C'est honteux ce que vous faites! En tout cas, mon temps libre est passé. Merci pour ces informations et bonne journée. Je suis désolé, Alan, t'as pas eu une seule info. Bon, allez, on y va. Vous êtes prêts? On y va pour le sommaire. Quelqu'un, je vous garde, ça me dégoûte même. T'as eu un enfant? Arrêtez de me relancer. On est 3-4, tu vas faire quoi? Mais je vais vous prendre 1v1, moi. Mais je vais vous prendre 1v1, moi. Un par un, moi. Même. Un ours, Samuel dans l'octogone, un ours, je gagne. Un lion, je gagne. 3000 viewers, je gagne, moi. Je crains des gueux, moi. Bon, on y va, on fait le sommaire. 10 gorilles, pfff. On a foutre. Sans gorilles, pfff. On a foutre. On y va, c'est parti. Un avion, je le fais mais deux avions, je les fais atterrir sans problème, moi. On y va. Vous êtes prêts? Là, vous avez le, je vous ai mis le sommaire. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit bonjour puisqu'on va. C'est à partir de ce moment-là que la revue de presse, qui est également en podcast audio tous les jours depuis la rentrée, commence. C'est-à-dire que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast, tout ça, ils ont pas l'intro, ils ont pas les 1 heure là. Et ils savent pas ce qu'ils perdent. Ok ? Allez, c'est parti. 3, 4. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne, la grande revue de presse sur Twitch. Tous les matins depuis 5 ans, on est le mardi 10 mars 2026. Et ça fait, amis qui nous retrouvaient en podcast, merci d'être là, ça nous fait 1 heure qu'on a commencé ici, bon parce qu'on est un peu bavard sur Twitch, voilà donc je vous passe toute l'intro, on a fait une intro de 1 heure, ne me demandez pas de quoi on a parlé de tout, on a refait le monde, alors, on a parlé pendant 1 heure, donc si vous voulez avoir les bonus, c'est sur Twitch en direct ou en replay sur YouTube. Amis qui êtes avec moi en live sur Twitch, Rebonjour, amis qui nous écoutaient en replay sur podcast. Bonjour, amis qui nous écoutaient en podcast audio. Merci d'être là, c'est super. On va commencer par l'essentiel de l'actu. C'est-à-dire que je vais vous dire en quelques minutes ce qu'il y a dans l'actualité pour que vous ayez l'essentiel de l'actu en quelques minutes, même si vous n'avez pas 2-3 heures à me consacrer. C'est parti. De quoi ça parle? Salut Noctalie. Ce matin, eh ben ça parle bien sûr de l'Iran. Enfin, je vous ai mis plusieurs articles pour suivre le conflit. Et cette question que beaucoup se posent, est-ce qu'on va vers un choc pétrolier dans le monde? Hein, c'est la une de la Croix, vous le voyez, le spectre d'un choc pétrolier. La guerre au Moyen-Orient fait naître la crainte d'une crise économique. Alors que les prix du pétrole s'en bat, les marchés s'affolent, les États s'inquiètent. En fait, j'aurais pu vous montrer plein de unes. Je crois que la une du Parisien est sur le même sujet. Regardez la hausse jusqu'où, c'est la une du Parisien. La une de Libération. La pompe à retardement. Magnifique article. Dans Libération, je suis sûr que le Figaro était là-dessus aussi. Hop. Guerre d'Iran, le monde redoute un choc pétrolier. Mais je vous ai mis le dossier de la Croix parce que j'ai lu tous ces dossiers et je trouve que celui de la Croix est particulièrement clair. Donc j'ai choisi celui-ci. Doit-on craindre un nouveau choc pétrolier? Plein de petites questions. Un tel choc peut-il vraiment avoir lieu? Quelle piste pour limiter la hausse des prix? Quelles seront les conséquences pour l'économie mondiale? Ce que peut faire le gouvernement? On lira tout ça. La situation en Iran aussi. Je vous ai mis un portrait dans Le Monde de celui qui a succédé à Ali Khamenei au poste de guide suprême de la République islamique d'Iran, son fils, hein, le fils d'Ali Khamenei qui lui succède en Iran. On en a parlé hier, j'attendais un article de qualité pour nous le présenter, le voici. Merci Mayra pour le Prime, merci Pierre, merci Effusion, merci beaucoup. Donc on lira également ce papier sur l'Iran, et hop, jour Malène de la Croix, elle me dit, bah, il bégaye le Samuel, et il radote. Non, parce que je voulais aussi vous lire cet édito sur la neutralité combative. La neutralité combative, c'est officiellement la position de la France. Vous avez déclenché un train de la hype, bande de fous. C'est la position de la France de ce conflit. Voilà. Qui a dit qu'elle ne taperait pas, qu'elle ne participerait pas aux frappes contre l'Iran, voilà, mais qu'elle a aussi des intérêts et des alliés dans la région. Donc, neutralité combative, qu'est-ce que c'est exactement? Édito de Jean-Christophe Ploquin dans La Croix. Et quelles conséquences ça peut avoir? Voilà. Je vais à la fin de l'article. Voilà. La France adopte une posture offensive de son action défensive. Elle prend toutefois le risque que les belligérants, notamment l'Iran, ne comprennent pas cette neutralité combative. Le danger est réel que la guerre rattrape la France. Je vous lirai ce papier. Voilà. Les municipales, puisqu'on n'est pas vendredi soir minuit, on a le droit de parler des municipales et de lire des éditos et de donner des sondages. Je crie parce qu'on a passé quasiment une heure avec le chat Twitch tout à l'heure pour comprendre quelle était la période de neutralité que devaient respecter les médias à partir de vendredi soir. Pour ne pas influencer sur le vote des électeurs, ne pas donner de sondage, ne pas donner la parole à tel ou tel candidat. Donc là, on est mardi, tout va bien, on peut en parler. Et là, il y a un édito assez étonnant, dans l'IB, Thomas Legrand, qui nous dit que à Paris, à Marseille, à Lyon, il y a un parfum de trumpisme. Quoi? Qu'est-ce que vient faire Donald là-dedans? Le mec est sur son golf, tranquille, à Mar-a-Lago, là. Il décide tel jour de bombarder tel pays, tel jour de bombarder tel autre pays. Il est sur un 18 trous. Et il y a un mec en France qui dit « Oh, il y a comme un parfum de trumpisme à Paris, avec Madame Dati, à Marseille, avec la campagne du RN, et à Lyon, avec Jean-Michel Aulas. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On lira l'article pour essayer de comprendre ce que nous dit Thomas Legrand. C'est plutôt intéressant. Hein, et puisqu'on a le droit, toujours avant la période de réserve électorale, de parler de sondages et d'enquêtes, vous avez un papier dans Le Monde, voilà, sur le paysage politique français qui se droitise. Qui se droitise. Tu parles pas de Montpellier avec Rémi Gaillard? On a déjà parlé de Montpellier avec Rémi Gaillard. Il faut être là tous les jours, hein. Ah oui, tous les jours, il y a de nouvelles actus. Ah bah, tu loupes une revue de presse, tu loupes tes actus. Ah bah oui. T'es pas là le lundi, t'as pas les infos du lundi. T'es pas là le mercredi, t'as pas les infos du mercredi. Ah bah, faut être là tous les jours. On a déjà parlé de Montpellier. Donc, papier dans Le Monde. Voilà, un paysage politique fortement droitisé. C'est une enquête Ipsos BVA pour Le Monde, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès qui décrit un contexte inédit. Voilà. C'est quoi cette droitisation du paysage poétique français? On va se pencher là-dessus. Yes, we clown. Ouais, exactement. Ça, c'est Rémi Gaillard à Montpellier. C'est le mot d'ordre de sa campagne. Sinon, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, vous avez la revue de presse tous les matins sur Twitch, qui est en replay sur YouTube gratuitement et en replay sur toutes les plateformes de podcast audio. Voilà, donc on se penchera sur ce papier. Et puis on terminera. Je vous ai pas mis 1000 articles ce matin. Vous avez, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est moins que d'habitude, mais c'est pour ça que j'ai fait une intro un petit peu longue ce matin aussi. Un article sur Roblox. Pédocriminalité. Roblox doit rendre des comptes. De quoi s'agit-il? C'est Bruxelles, c'est l'Union Européenne, qui va demander des comptes à Roblox. Hein. Plateforme critiquée pour son manque de protection de ses jeunes utilisateurs face aux pédocriminels. Ouais. Eh oui, Diesel. Diesel, tu dis quoi? Bah voilà. Il y a quelqu'un dont j'apprécie beaucoup les prises de parole qui s'appelle Sarah El Haïry. C'est quoi son poste officiel, Sarah El Haïry? Attends, je vais vous donner ça. Elle est citée dans l'article. Je crois que c'est défenseur des... Où est-ce qu'elle est? La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry. Elle déclare notamment sur Roblox qu'il y a une quantité au mètre carré de prédateurs. C'est devenu un repère de pédocriminels. Voilà. Donc voilà, je voulais vous alerter un peu là-dessus. Si vous avez autour de vous des enfants en bas âge, enfin jeunes, qui passent un peu de temps sur Roblox, ouais, il s'agit juste de voilà, se mettre en alerte. De toute façon, on ne laisse pas un enfant seul devant un écran. Voilà. C'est quoi Roblox? Je t'expliquerai tout, Lilo, vous savez qui. On ne laisse pas un enfant seul devant un écran. Voilà. Un enfant, il peut faire de l'écran, il peut faire du jeu vidéo, il peut faire plein de choses, hein, de façon encadrée, de façon accompagnée, et on ne laisse pas un enfant tout seul devant un écran, de toute façon. Il faut que cette pratique soit accompagnée, c'est hyper important. Voilà, mais pour eux, voilà. Donc, petite mise en garde à propos de Roblox. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce petit sommaire? Bon, on va prendre le temps, mais c'est le sujet plutôt intéressant. Et pour ceux qui n'étaient pas dans la grosse intro qu'on a fait sur Twitch tout à l'heure, sachez que dimanche, mon invité de Samplay, mon émission sur le jeu vidéo de dimanche, finalement vient de me prévenir ce matin qu'elle pourrait pas être là. Voilà, et ça c'est pas très grave, elle reviendra pour une autre date. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite soirée municipale. Premier tour des municipales dimanche sur ma chaîne Twitch, voilà, à partir de 19h30, pour voir un petit peu en direct. On ira voir sur lemonde.fr, lefigaro.fr, libération.fr, etc. Les résultats, les tendances, je trouve ça plutôt intéressant. Donc rendez-vous dimanche. Salut Mathieu, une capsule sur les deux premiers sujets? Oui Mathieu, je pense que t'as raison. Sur YouTube, moi je ferais bien le choc pétrolier, moi. Peut-être pas Ramenei, pas le fils Ramenei, mais je vais te faire une capsule YouTube, ouais, sur le spectre d'un choc pétrolier. Tu emmèneras Pio dans l'isoloir, bien sûr, il va m'aider à voter. Comment se porte ton plus gros projet? Bah, il a pris 400 grammes en 6 jours. Il est en pleine forme. Dans 15 jours, il est plus grand que moi. Et il me prend dans l'octogone. Il est en pleine forme. 400 grammes. En 6 jours. Je sais pas ce qui se passe. C'est le comté, ça? La cantine est bonne? Ouais, enfin, la cantine, c'est Hélène, du coup, mais... Non, mais il mange, il dort. Ouais. Et pourtant, on n'a pas mis de prod dans son bib. Il mange, il dort, il sourit, il fait un petit rototo, il mange, il dort. Et c'est vrai, ils sont heureux. Ils sont trop gentils. Voilà. 400, ben je sais, 400 quoi. Et Hélène pensait que la balance était pesée, mais on a retourné à la clinique pour le peser. Et il a pris 400 grammes en 6 jours. C'est... Malo et Solal n'avaient pas du tout fait ça, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Il est heureux. Hein. C'est incroyable. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un petit, ouais. C'est beaucoup, ouais. Après, on va le mettre en sèche, hein, bien sûr. Souvent, parfois, les bébés, ils perdent un tout petit peu de poids au début même. Ils peuvent même perdre un tout petit peu de poids au début après la naissance. C'est compliqué, hein, les premiers jours d'un bébé. Mais alors lui, Impeccable. c'est trop cool. Bon, ben on y va, hein, on va commencer la revue de presse. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Peut-être mettre un sweat, moi j'ai un petit peu froid et on démarre. On va commencer avec le choc pétrolier. Let's go. Allez hop, la revue de presse, let's go. Mais non, je m'en vais pas, je mets un sweat. Enfin, un sweat. Comme vous voulez. Allez, vamos. Premier sujet, est-ce qu'on va vers un choc pétrolier? Bim, comme ça. D'un coup d'un seul. Alors, ce matin, des dossiers sur cette question, est-ce qu'on va vers un choc pétrolier? Merci beaucoup Pamphile, merci Pamphile, merci Guilor, merci Akel, merci un jeu de coco, pourquoi pas. Merci Mayra, encore. Cette question est à la une de tous vos journaux. On l'a vu tout à l'heure, c'est à la une du Parisien, c'est à la une du Libération, c'est à la une du Figaro. Bah. Du coup, j'ai lu tous ces dossiers, j'ai trouvé que celui de Lacroix était peut-être le plus clair, le plus pédagogique. Quoi. Donc, je vous lis ce dossier. Lacroix, le spectre d'un choc pétrolier. Alors, c'est pas que... Attention, hein, quelqu'un me dit « Oh là là, il y a la guerre, on parle de l'augmentation du prix à la pompe. » C'est pas ça un choc pétrolier. C'est pas ça un choc pétrolier. Non, non. L'augmentation du prix à la pompe, c'est une chose. Elle est déjà là, l'augmentation. Non, non. C'est... Ah, oh, putain, j'ai oublié le shout-out. Ah, je recommence tout, j'ai oublié pour nos amis de YouTube. Je recommence tout à zéro. Bon, ne faites pas ça à la maison, c'est vraiment un truc de professionnel. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Etienne sur Twitch. C'est la revue de presse tous les matins que je fais depuis 5 ans. Et on voulait avec la commu. D'ailleurs, la commu sur Twitch va dire bonjour à YouTube hein, parce qu'ils sont gentils. Dites bonjour, vous êtes polis. Faites coucou YouTube. Amis de YouTube, n'hésitez pas à faire coucou Twitch aussi. Hop, hein, communauté, hop, cohésion, sympathie, chaleur. Voilà. Et avec la commu sur Twitch, on s'est dit qu'on mettrait bien en avant cette histoire de choc pétrolier. Voilà. Est-ce qu'on va vers un choc pétrolier? Je disais à l'instant, quelqu'un dans le chat me disait « Oh là là, il y a une guerre et tout, et on parle de l'augmentation du prix à la pompe. » Bah non. C'est pas que ça, c'est pas juste l'augmentation du prix des carburants. Un choc pétrolier, c'est quand c'est l'hypothèse où l'économie tout entière, française, européenne, mondiale, serait impactée par cette crise pétrolière. Voilà. Avec des conséquences sur... l'inflation, sur le prix des biens, sur la vie des entreprises, sur l'activité et après sur l'emploi. C'est ça, ce qu'on appelle un choc pétrolier. Alors, est-ce qu'on va vers ça? On n'en est pas là. Lisons. Le spectre d'un choc pétrolier, c'est la une de la Croix. La guerre au Moyen-Orient fait naître la crainte d'une crise économique, voilà. Alors que les prix du pétrole sont bas, les marchés s'affolent et les États s'inquiètent. Le choc, c'est quand il y a un engrenage tout à fait Mitsuhiko. J'ai ça, moi. Ah oui, c'est parce qu'on est un petit peu en arrière. Dati, c'est tout à l'heure. Doit-on craindre un nouveau choc pétrolier? Je trouve que parmi tous les dossiers qu'il y a ce matin dans la presse, celui de Lacroix est peut-être le plus simple. Avec la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Hormuz, par lequel passe, on le rappelle, 20% du pétrole mondial, le spectre d'un nouveau choc ressurgit. Le prix du pétrole s'emballe, les marchés s'affolent, on a un prix du baril qui est monté à 120$, qui s'est stabilisé autour de 100$, je crois, mais qui a monté très fort, très vite. Dans le chat, ils vont me dire où le... À quel niveau est le baril du pétrole actuellement? Parce qu'ils sont incroyablement forts. Le prix du pétrole s'emballe, les marchés s'affolent, les États s'inquiètent, mais les conséquences de la crise dépendront avant tout de la durée du conflit. À 90 aujourd'hui, c'est un petit peu redescendu? Ok. Non, il est monté à 120. Un tel choc pétrolier peut-il vraiment avoir lieu? D'abord prudent. Les marchés de matières premières ont fini par céder. Depuis lundi 9 mars, la retenue a laissé place à l'emballement. Le prix du baril a brièvement dépassé les 119$. Hein, vous me dites qu'il est à 91 à peu près maintenant, 91. Son pic depuis l'été 2022, il faut remonter à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 2022, pour avoir ce niveau du prix du baril de pétrole. Le 27 février, à la veille de l'attaque israélo-américaine, le baril se vendait juste en dessous de 73$. 10 jours plus tard, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il avoisine les 101$. Ça, c'était hier. Nous cochons donc deux des trois cases constitutives d'un choc pétrolier. Hausse brutale, hausse importante. 2 cases sur 3. C'est ce qu'indique Francis Perrin, qui est directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste du gaz et du pétrole. Mais elle ne s'inscrit pas encore dans le temps. Voilà, la troisième case, vous l'avez compris, il faut que ce soit une hausse brutale, une hausse importante. Effectivement, comme dit Nix, il vous manque une case. Enfin, non, pas à vous. Enfin, il nous manque une case. Pas à nous, il manque une case. Et la case, bien sûr, c'est que cette crise dure dans le temps. Elle ne s'inscrit pas encore dans le temps, or ce sont des cours durablement élevés qui pénalisent l'économie mondiale. Lorsqu'on parle de choc pétrolier, une mise en perspective est nécessaire. Le dernier en date, c'est celui qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà. Donc c'est 2022, puisque la guerre dure depuis 4 ans. Enfin, l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis 4 ans. Sur toute l'année 2022, le prix moyen du baril de Brent a été de $86. Et heureusement, on en est encore loin, poursuit François Perrin. Voilà. Bon, vous venez de me dire que le baril, actuellement, à l'heure où on parle, il est autour de 91 euros. Bon, sur l'année 2022, on était quand même à $86. $86 sur l'année. Là, on était en crise. Même chose. Alors, il y a le pétrole, il y a le gaz naturel aussi. Merci, Nat. Même chose pour le gaz naturel, dont les tarifs, eux aussi, décollent. Le contrat TTF néerlandais, l'unité de référence dans l'Union européenne, affiche actuellement un prix de 59 euros le mégawatt-heure. 37 euros le 27 février. Nom de Dieu. Merci, chère Ekan. Merci, Brigitte63. Vous êtes incroyable. On était tout de même monté à 339 euros le mégawatt-heure à l'été 2022. Contextualise Francis Perrin. Parce que Francis Perrin, il peut contextualiser aussi. Bon, faut avoir la ref. Donc là, 59 euros, c'est quand même monté à 339. Le gaz, c'est la folie. Quelle piste pour limiter la hausse des prix ? Alors là, tout le monde y va de sa petite proposition, tous les partis politiques, c'est toujours la même. Alors, moi, je sais ce qu'il faut faire. Faut faire ci, faire ça, baisser cette taxe, machin, tout. Bon, à chaque fois, c'est la même. Quelle piste pour limiter la hausse des prix ? En déplacement à Chypre lundi, donc à Chypre, il n'y a pas que des influenceurs en carton-pâte qui vendent des formations hors de prix sur Internet tout en... Ne payons pas d'impôts en France, il y a aussi le président qui était en déplacement. En déplacement à Chypre, lundi 9 mars, Emmanuel Macron a assuré travailler à une mission internationale purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz avec des partenaires européens et non européens. Alors c'est mignon ça, ce vœu du président Macron de rouvrir le détroit d'Ormuz, sauf que c'est plus facile à annoncer, à souhaiter qu'à faire, quoi. Paris évoque des discussions avec l'Inde et d'autres pays asiatiques. L'idée est de s'inspirer de l'opération européenne Aspid menée depuis 2024 en mer Rouge pour protéger les navires des attaques des rebelles yéménites houthistes, les Houthis, avec une coalition emmenée par les États-Unis. Mais dans le détroit d'Ormuz, explique la Croix, la situation est plus complexe qu'en mer Rouge, compte tenu du niveau d'armement de l'Iran. Les experts militaires mettent en avant la menace de drones, de mines ou encore de sous-marins de poche iraniens dont on ignore s'ils ont tous été détruits. En fait, ce que les pays concernés n'arrivent pas à mesurer, c'est quelle est la réelle menace iranienne sur le détroit d'Ormuz. Sous-marins de poche, merci Gustavo Eldecetto, mines, drones, voilà. Outre une option militaire pour assurer la sécurité des pétroliers et méthaniers transitant par ce détroit, ces navires transportent habituellement un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié consommé autour du globe. Je disais du pétrole, mais il y a aussi le gaz naturel liquéfié. Donc il y a cette piste de la réouverture du détroit d'Ormuz, mais vous avez compris que c'était un peu compliqué, même très compliqué. Et puis il y a une autre piste qui est l'utilisation des réserves stratégiques en pétrole des pays. Affiliée à l'OCDE, créée en 1974 au lendemain du premier choc pétrolier, les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais il y a eu un choc pétrolier très important en 1974. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, impose à ses 31 membres de détenir en permanence des stocks stratégiques équivalents au moins à 90 jours, 3 mois, de leurs importations nettes de pétrole de l'année précédente. La France, par exemple, détient 118 jours de réserves pétrolières. Alors c'est même un peu plus. Via un vote de ses membres, l'AIE peut alors décider de débloquer une quantité précise de barils pour prévenir les pénuries ou faire baisser les prix sur le marché mondial en gonflant l'offre. Quand je vous disais que le dossier de la Croix était vraiment très clair, moi je trouve que c'est extrêmement clair. Oui, t'as raison, c'est 73 le show pétrolier. Melchior, 74. Oui, t'as raison. Le show pétrolier, c'est 73. Pardon, Melchior. Bien vu. Ce scénario s'est déjà produit plusieurs fois, nous explique Lacroix. Guerre du Golfe, 91. Donc là, où l'AIE a débloqué donc des réserves de pétrole pour faire baisser les cours. Ouragan Katrina 2005. Intervention occidentale en Libye 2011. Invasion de l'Ukraine 2022. Incroyable, hein? Un truc qui a été inventé au lendemain du premier choc pétrolier. Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en puisant dans les réserves stratégiques de pétrole de manière à stabiliser le marché, mais on n'en est pas encore là, a déclaré le 9 mars le ministre de l'économie Roland Gescure au sortir d'une réunion du G7. Ok, donc la première question c'était quelle piste pour limiter la hausse des prix? Voilà. Conséquences éventuelles pour l'économie mondiale. Encore une fois, quelqu'un dans le chat me disait tout à l'heure, je ne comprends pas, il y a une guerre, on me parle de la hausse de mon plein d'essence. Eh ben non, ce n'est pas que ça. Hein. C'est toute l'économie qui peut être éventuellement impactée. Un baril qui dépasse le seuil critique des 100 dollars réveille les souvenirs des grands basculements macroéconomiques, explique John Plassard, qui bosse dans une banque suisse. Avec à chaque fois les mêmes effets en cascade. La flambée des cours alimente une hausse généralisée des prix à la consommation qui se répercute sur l'ensemble de l'économie en augmentant les coûts de production de la plupart des secteurs d'activité, parce que le pétrole, l'énergie issue du pétrole, elle sert dans plein de filières, vous le savez, et dans certains pays encore plus que d'autres, et renchérit l'achat des produits importés. En bout de chaîne, les ménages risquent de voir leur pouvoir d'achat réduit. La volatilité accrue du baril alimente également l'incertitude, ce qui freine les décisions d'investissement et d'embauche et peut amplifier le ralentissement. Clac! D'une crise pétrolière à une crise économique. Tous les pays, cependant, c'est ce que je vous disais à l'instant, ne présentent pas la même vulnérabilité, du moins dans un premier temps. L'Asie est beaucoup plus dépendante que l'Europe du gaz et du pétrole venant de la péninsule arabique. Ce matin, au petit-déj. Merci Nayonette. Malo, 9 ans. Qui était en pleine révision de son exposé sur Zelda. Il fait un exposé cet après-midi sur Zelda. Ils ont fait 600 pages avec deux copains en classe. Alors, la maîtresse leur a dit, vous faites un exposé sur ce que vous voulez.
Comment ça, sur ce que vous voulez?
Alors, ils ont fait 600 pages sur Zelda, les monstres sur Zelda, etc. Bon, bref. Et donc, ils étaient en révision là-dessus. Non, je dis 600 pages, c'est une façon de parler. Ils ont fait un PDF, ils ont fait. C'est une dinguerie. Breath of the Wild. Et entre deux Zelda, il me dit, tu sais, papa, on parle beaucoup de la guerre en Iran. Je lui dis, ah bon? Bah oui, à l'école. Ok. Il me dit, et la crise du pétrole, là. Je dis, ok. Et il me dit, je crois que ce sont les pays asiatiques, surtout, qui sont très embêtés. Je dis, ok. Moi, je vais rien. Là, je suis dans le, c'est le matin, je suis dans le gage, qu'est-ce qu'il dit? Et dans la croix, je lis, l'Asie est beaucoup plus dépendante que l'Europe du gaz et du pétrole venant de la péninsule arabique. Il a 9 ans. Il m'a appris un truc ce matin. Attends, je vais prendre en photo, je le montrerai ce soir. Il avait préchoté la croix. Qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants? Ils ont quoi à la cantine? Vous leur donnez quoi à nos enfants à la cantine? Moi, j'avais. Pas la même chose que moi, hein? Et sur le coup, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je lui dis, pourquoi il dit ça? Je sais pas. Qui lui a dit ça? Je sais pas. Ah, il reçoit le petit quotidien, le petit journal, là. Ça m'étonnerait qu'il parle de ça, quand même. Je sais pas. Donc, Malo avait raison. L'Asie est beaucoup plus dépendante que l'Europe du gaz et du pétrole venant de la péninsule arabique. Pouf, incroyable. 38% du pétrole qu'achète la Chine passe par le détroit d'Ormuz contre 3% que celui qu'importe l'Europe. Mais les cours du gaz et du pétrole sont mondiaux et les pays européens n'échapperaient pas à une envolée durable des cours. Rappelle Nicolas Leclerc, fondateur du cabinet Omnegy. Cet expert fait remarquer que les prix de l'électricité sur le marché à court terme, eux aussi, ont grimpé de 25% en une semaine, car ils sont calés, ces prix, sur les prix du gaz dans les périodes de pointe. Waouh, waouh, waouh. La crise énergétique. Vous voyez l'engrenage qui est en train de se mettre en place? La crise énergétique se transforme alors en crise économique et en crise financière avec la dégringolade des marchés actions. Let's go! Les taux d'intérêt des dettes souveraines ont d'ailleurs recommencé à grimper un peu partout en Europe. Lundi 9 mars, avec la crainte d'un regain de l'inflation, très vite, les banques centrales seront alors confrontées à un dilemme. Lutter contre l'inflation importée ou soutenir soutenir quoi? La croissance qui fléchit. Ah oui, c'est ça. Eh oui, est-ce que nous, est-ce, oui. Ah oui, est-ce que, oui, mais est-ce, oui. Est-ce qu'on augmenterait les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation? Ou est-ce qu'on baisserait les taux d'intérêt pour soutenir la croissance qui fléchit? Eh oui, puisqu'on est face à une stagflation. L'enfer. Je suis sûr que Malo, il va me raconter ça demain. Tu sais, papa, tu sais ce qui est très inquiétant, papa? Non? Il a le père en PLS. Hier, il m'a parlé de des pays asiatiques et du pétrole. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu sais, papa, ce qui est très inquiétant? C'est la déflation, là. Mais qu'est-ce qu'on donne à bouffer à nos enfants? Merci, Gwen, pour les 10 amendements faire la commu. Merci beaucoup. Bah tiens, je vais donner à Malo, tiens, parce que il est devenu éditorialiste sur cette chaîne. Merci Jean Moule 2. Merci encore d'un test sur ça. Merci beaucoup, Gwen. Merci beaucoup. C'est incroyable en vrai. Hein. Alors, ce scénario catastrophe que je viens de peindre, attention, il faut savoir raison garder. Hein. Ce scénario catastrophe suppose néanmoins que les prix du pétrole et du gaz restent durablement élevés. Merci Paula. Avec un conflit qui s'enlise. Et des capacités de production durablement amoindries par les frappes aériennes. Donc quand on se pose la question, depuis plusieurs jours, mais combien de temps va durer le conflit? Est-ce que c'est quelques semaines? Est-ce que c'est peut-être plusieurs mois? Est-ce que Trump ne va pas reculer sous la pression de l'opinion publique américaine, du Congrès, alors qu'on approche des élections de mid-term, de mi-mandat aux États-Unis? Voilà, ben dans ce cas-là, ça pourrait éventuellement enrayer ce mécanisme de crise économique. Par exemple, vous avez Philippe Crevel, qui est directeur des cercles de l'épargne, qui dit la guerre en Iran devrait être relativement courte. D'où tu sais ça, toi? Filou, je t'aime bien, mais c'est pas une boule de cristal, quand même. Ah, avec les élections de mi-mandat en perspective, Donald Trump souhaite sans nul doute un conflit limité dans le temps. Alors, Philippe, t'es en train de nous dire que tu sais ce que pense Trump. Filou, je te rappelle que Trump ne sait pas ce qu'il pense lui-même. Hein. Donc là, Filou, tu t'engages. Hein. Filou Crevel. Selon cet expert, le pétrole pourrait très vite revenir autour de $60 le baril, son prix d'équilibre avant le début du conflit. Et ce surtout si les sanctions à l'encontre de l'Iran sont levées, puisque l'offre serait supérieure à la demande. Pour les mêmes raisons, les cours du gaz redescendraient rapidement. J'aime bien ce petit pari sur un conflit court, mais... C'en est où le Boursorama, là, la bourse? Boursorama. Ah oh, bah c'est... Ça s'enflamme. Plus 2%, la bourse de Paris. Ah oh, j'ai tout ici, le pétrole, $90 le baril. Donc ça, okay, c'est un peu apaisé. Et toutes les places boursières sont un petit peu en hausse. Le Dow Jones, le Nasdaq, le Nikkei, le DAX, l'Eurostock 50. Ok. Donc les marchés financiers seraient un petit peu optimistes ce matin. Donc voilà. Moi, je trouve que ce dossier... dollar ou euro? Oh, ben, le pétrole, c'est en dollars normalement. Hein. Ah, tu penses qu'il donne en euro? Ouais, c'est en dollars, pétrole. Ha ! Qu'il est 22. Tu me prends pour une brêle ou quoi ? Non, le dollar, c'est en pétrole. Là, il vous donne des valeurs indicatives en euros dans l'article pour vous faire plaisir, parce qu'on est, français. Mais le pétrole, c'est en dollars. À suivre. Ok, alors... Maintenant, on va parler des prix à la pompe. Mais vous avez bien vu que c'est quelque chose de différent, quoi. Bon, là, actuellement, à court terme, le premier truc, c'est que le prix du plein augmente en France et ailleurs. Donc, que faire par rapport à ça et par rapport à l'éventualité d'une crise économique? Là, c'est l'article qui est à droite, là, dans la croix. Ce que peut faire le gouvernement. Avec toutes les propositions des oppositions, bien sûr, qui, elles, savent ce qu'il faut faire. C'est normal, c'est le jeu démocratique, quoi. En réaction à la flambée des prix à la pompe et aux craintes d'un choc pétrolier, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, plusieurs partis appellent l'exécutif à agir sur les tarifs du carburant. Voilà. Diverses options sont envisageables. Le gouvernement assure renforcer les contrôles dans les stations-service. de l'offensive menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran aux stations essence françaises, il n'y a qu'un pas. Alors que le conflit se répercute sur les pays du Golfe et le blocage du pays du détroit d'Ormuz, les prix à la pompe bondissent en France. Lundi, le SP95, l'essence la plus consommée par les Français, se vendait en moyenne 1,84€, soit une hausse de 5%, ce qui est beaucoup, hein, en une semaine, tandis que le gazole atteignait le seuil de 2€ le litre. Sous pression, Le Cornu, Premier ministre, a annoncé dimanche... je m'enrhume. 500 contrôles dans les stations-service par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes pour éviter des hausses abusives des prix à la pompe. Je lisais un article ce matin. 500 contrôles annoncés par le gouvernement, réalisés par les inspecteurs de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation des Fraudes. Pour contrôler quoi ? Le prix des carburants, qui sont publics. Non, c'est pas que c'est peu. Qui sont publics, qui sont affichés. Il n'y a rien à contrôler. C'est public. Mais c'est pas que c'est rien, ça se contrôle, c'est que ça sert à rien. Ils sont pas cachés, ces prix. Ils sont affichés. L'édito que je disais ce matin, je ne l'ai pas mis de côté, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est les prix libres. Alors tu peux râler. Ah, les prix sont envoyés à l'État, c'est pour vérifier que ça correspond vraiment à ce qui est vraiment à la pompe. Ah, tu penses que parfois ils mentent un petit peu ? Ah, je ne l'avais pas. Mr. Little Cat me dit pour contrôler que le prix déclaré est le même que le prix pratiqué. Ah, tu crois que parfois il y en a qui ne déclarent pas le bon prix ? Ah, il y en a qui trichent. Ah. Il y en a qui... Eh ben dis donc. Il y en a un qui était monté à 2,50€ et après contrôle, il était descendu à 2,20€.
Quelle indignité.
Mais sérieux ? Mais c'est pas bien, ça. 6% ont été verbalisés ? C'est pas très cool. En 2026 ? D'autres annoncent 1,90€, t'arrives à la bombe, c'est 2,10€. Oh putain, c'est pas cool, ça. Eh ben, je retire ce que j'ai dit. C'est dingue. Je trouve ça dingue. Ok. Pour éviter des hausses abusives des prix à la pompe. Non, c'est pas pour éviter des hausses abusives alors. C'est pour éviter que certains mentent sur la déclaration qu'ils font à l'État. Ouais, d'accord. Je comprends. Pour le reste, la ministre déléguée à l'énergie et la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjean, estimait lundi qu'il était encore trop tôt pour instaurer des aides ciblées, même si tous les scénarios étaient étudiés. Parce que ce que beaucoup de partis d'opposition demandent là, c'est des baisses de taxes. Des aides. Car à quelques jours du premier... Tiens, comme par hasard, à quelques jours du premier tour des municipales, plusieurs partis, dont le RN et LFI, réclament de l'exécutif des actions franches pour épargner le portefeuille des Français. Le premier, donc c'est RN, via une baisse des taxes sur le carburant. Les seconds, LFI, grâce au blocage des prix à la pompe. L'article L410-2 du Code du commerce permet en effet au gouvernement de plafonner par décret le prix de certains produits, ça s'est déjà fait, hein, pour une durée maximale de 6 mois dans certaines circonstances exceptionnelles. Tiens, ça avait déjà été fait en 2020, en juillet, en pleine crise sanitaire, pour le prix des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique. La mesure n'a cependant pas été appliquée au prix de l'essence depuis août 90, ça remonte. Au moment de la guerre du Golfe, en raison notamment de son coût pour les finances publiques, en cas de plafonnement, ça coûte un pognon de dingue. En cas de plafonnement, l'État doit compenser intégralement les pertes des distributeurs et raffineurs. Donc finalement, c'est pas l'automobiliste qui paie la différence, c'est le contribuable. Voilà. C'est l'impôt. Alors contribuable et entreprise aussi, bien sûr, impôt sur les sociétés, il n'y a pas que le citoyen qui contribue, bien sûr. Lors du choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine, le gouvernement avait privilégié un rabais, donc c'était pas un plafonnement. Un rabais appliqué directement sur les prix à la pompe. Pendant 9 mois en 2022, les automobilistes avaient donc bénéficié d'une réduction en caisse non visible sur les prix affichés en station, variant de 10 à 30 centimes par litre selon les mois, plus facilement maîtrisable du point de vue du budget. Cette ristourne pourrait être un levier d'action en cas de niveau des prix durablement élevé. Voilà. La mesure avait en 2022 coûté à l'État 7,5 milliards d'euros. selon le ministère de l'économie. C'est pas rien, 7,5 milliards. Le RN défend quant à lui une baisse des taxes sur le carburant. Après avoir accusé le gouvernement, moins de 48 heures après le début de l'opération israélo-américaine, de profiter de l'explosion des prix sur l'énergie pour s'enrichir sur le dos du contribuable, en cause le poids des taxes sur les carburants, estimé à environ 55% du prix total par Bercy. Les recettes de la TVA étant proportionnelles au prix, l'association 40 millions d'automobilistes dénonce un hold-up fiscal. Elle réclame donc un abaissement immédiat de cette taxe à 5,5% afin d'aligner la fiscalité des carburants sur celle des produits de première nécessité. Maude Bréjean a déjà jugé cette proposition inconcevable au regard de son coût pour la puissance publique, estimé selon elle à 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Alors, elle est belle cette mesure, mais elle coûte 20 milliards d'euros. Reste une autre piste, jusqu'ici absente du débat et plus complexe, celle d'une taxe flottante. Cette solution avancée en 2019, vous vous en souvenez peut-être, dans une proposition de loi socialiste visant à rendre aux consommateurs sous forme d'une baisse de cette TICPE, le surplus de TVA perçu. Et à ce propos, j'ai justement un édito ici. Ah, je ne vous l'ai pas mis, je vais vous le chercher. Il y a un édito sur le sujet des taxes, là. C'est dans le Parisien. Merci, parenthèse. Sur l'histoire de ce que demande le RN, là. Je vous la mets. L'édito. Hein. Sébastien Lernoux. Fausse bonne idée. À peine les cours du pétrole ont-ils grimpé que le RN a ressorti sa mesure fétiche. Baisser les taxes sur les carburants pour soulager le portefeuille des automobilistes, notamment des classes populaires. Quelqu'un dans le chat me disait « Oui, alors vous parlez du LFI et du RN et les autres partis, ils s'en foutent du prix du plein ?» Bah écoute. Donc, baisser les taxes sur les carburants pour soulager le portefeuille des automobilistes, notamment des classes populaires. La proposition a l'avantage d'être simple à comprendre, facile à appliquer, mais elle est truffée d'effets pervers. D'abord, son coût est astronomique. Baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques, comme le préconise le RN, représenterait un manque à gagner de plus de 11 milliards d'euros. Voilà. Bon, Maude Bréjean, elle a dit 20, mais bon. Kevin, les comptes sont pas bons. Hein. Ensuite, rien ne dit que les Français verraient la différence. Écoutez ça. Ensuite, donc, un, ça coûte un pognon de dingue. Deux, rien ne dit que les Français verraient la différence. Les distributeurs étant libres de répercuter ou non cette baisse sur les prix, ils pourraient en profiter pour gonfler leurs marges, comme l'ont fait les restaurateurs quand ils ont bénéficié de ce joli cadeau fiscal en 2009. Donc, un, ça coûte beaucoup. Et deux, c'est pas forcément les Français qui en profitent. Enfin, toute ristourne à la pompe est une aubaine pour les plus riches, inciter ainsi à rouler davantage. En 2022, ça l'avait montré. Face à la flambée du prix du baril à l'époque, le gouvernement avait mis en place une remise jusqu'à 30 centimes par litre de carburant pour une facture de 7,5 milliards d'euros. Quelques mois plus tard, l'INSEE publiait une étude pour en mesurer l'impact. Résultat, en moyenne, ce coup de pouce avait permis d'éviter un surcoût de 51 à 80 euros par ménage. Sauf que pour les 25% les plus aisés, la ristourne avait allégé la facture de 64 à 115 euros, quand le quart des plus modestes n'avait économisé que de 29 à 48 euros. Voilà. Bref, arroser large revient cher. Et ce n'est pas le meilleur moyen de toucher sa cible. Voilà. S'il veut prendre une mesure efficace, écrit ce matin Le Parisien, le gouvernement serait bien inspiré de ressortir plutôt le chèque carburant destiné aux ménages précaires expérimentés en 2023. Le Parisien nous dit que cette proposition du RN, elle est un peu électoraliste, un peu populiste, mais économiquement, elle ne tient pas trop la route. Voilà. Après, il y a ce qu'on propose quand on est l'opposition, et il y a ce qu'on propose quand on est au pouvoir. Et pas si le RN était au pouvoir, peut-être qu'il ne proposerait pas cette formule. Voilà. Ou alors il le proposerait, mais au bout de quelques mois, on leur dirait « mais rends l'argent, quoi !» Je vous lis un petit peu et on enchaîne. Merci, parenthèse tirée. Merci, Günther Bendick. Merci beaucoup, Tito, tu régales. Merci pour ton message. Ouais, on est, on l'a vu tout à l'heure, on est à 91 dollars le baril. Effectivement, ça a baissé là. Le spectre de la crise, du choc pétrolier dont parle la Croix en Savine ce matin, là, il s'éloigne un tout petit peu à l'heure où on parle, quoi. À voir. Mais en fait, c'est la durée de ce conflit aussi qui va, en Iran, qui va impacter, qui va provoquer ou pas une crise, quoi. Et ça, nous, on ne sait pas combien de temps va durer ce conflit. Merci Pounia pour ton message. Merci pour ton soutien. Suite aux déclarations. Ah, c'est pour ça que les marchés boursiers réagissent. C'est parce que Trump a. Qu'est-ce qu'il a dit, Trump? Parce que souvent, Trump, il dit des choses et après, il tient ses promesses. Non, c'est pas vrai. C'est quoi l'article? France Info. Il a dit que la guerre était bientôt terminée? Ah, remarque, s'il veut décider d'arrêter les frappes, c'est lui qui décide en vrai. Guerre quasiment finie pour Trump. Trump affirme que la guerre en Iran est quasiment finie. Le président américain a déclaré lundi à une journaliste de la chaîne CBS que la guerre était quasiment finie. Mais quasiment, ça veut dire quand? Le chef d'État américain fait valoir que Téhéran n'avait plus de marine ni de communication ou de force aérienne. Mais ça, on le sait, mais depuis un petit moment déjà. Il a ajouté que le conflit était... Sauf qu'en fait, le blocage du détroit d'Hormuz et les frappes contre les pays pétroliers, c'est avec des drones, ça n'a rien à voir avec la force aérienne ni même avec la marine de l'Iran. Il a ajouté que le conflit était très en avance sur le calendrier de 4 à 5 semaines qu'il avait évoqué auparavant.
Okay.
Les cours du pétrole ont reculé suite à cette déclaration. Cela va se terminer bientôt. Bientôt. C'est bientôt. Et si cela recommence, ils seront encore plus durement touchés. Ils, je pense que c'est les Iraniens. Trump a aussi menacé de frapper l'Iran beaucoup plus fort si les autorités du pays décidaient de bloquer l'acheminement du pétrole dans la région. Donc là, il dit que non seulement ça ne va pas s'arrêter, mais il va taper encore plus fort, non? Le président américain dit qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole afin de réduire les prix. Nous avons des sanctions sur certains pays, notamment la Russie, la guerre en Ukraine. Nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que cela s'arrange. Après, qui sait, peut-être que nous n'aurons pas à les remettre, a ajouté le président américain. On est en train de nous préparer à la levée des sanctions contre la Russie. Quelque chose de bien. Il y a une petite musique là en ce moment qui dit « Ah ouais, mais alors, comme il n'y a plus de pétrole, il faudra peut-être lever les sanctions contre le pétrole russe et tout. » Ok, à suivre. Il y a 2-3 jours qu'il y a cette petite musique là. Bon, bah à suivre. En tout cas, vous avez des clés sur l'histoire de... du choc pétrolier. Est-ce qu'il y a un risque de choc pétrolier ou pas? Merci Pounia. Je trouve que le dossier de la Croix, je ne sais pas ce que vous en pensez, est quand même super clair. Voilà. On va rester sur l'Iran avec un portrait du fils de Ramenei, qui est donc devenu le nouveau guide de la République islamique. Il y a Sketch of the West qui me dit « Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré ce matin qu'il se préparait à une guerre longue et qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour la faire durer. » Oui. En tout cas, c'est la déclaration de Téhéran. Sujet suivant. Le fils Ramenei lui succède en Iran. La nomination du nouveau guide qui traduit estime le monde dans cet article, le maintien du statu quo dans le pays. On est en train de se demander comment va agir justement l'Iran. Est-ce que le conflit va se durer? Est-ce qu'il y a la volonté de faire durer ce conflit du côté de l'Iran? Est-ce qu'ils ont les moyens militaires de le faire? On a peut-être des éléments ici dans cet article. Du père au fils. Déjà, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'un régime, quelque régime que ce soit, où c'est le fils qui succède au père, bah, c'est pour ceux qui en doutaient encore, le régime a un problème, quoi. Du père au fils. Après plusieurs jours de rumeurs et de tractations, le nom de Mortaba Ramenei, 56 ans, a été annoncé comme celui du prochain guide suprême de l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi. Il succède donc à son père Ali Khamenei, 86 ans, tué lors de frappes conjointes israélo-américaines le 28 février, au premier jour de la guerre qui est actuellement en cours. Ces dernières années, à mesure que Ali Khamenei vieillissait, les spéculations quant à sa succession se sont multipliées. Le nom de Mortaba Khamenei, donc son fils, était régulièrement évoqué par les observateurs de la politique iranienne. La nomination de cette personnalité peu connue du grand public, mais proche des gardiens de la révolution par l'Assemblée des experts, qui est l'instance religieuse chargée de choisir le guide suprême. Alors, le guide suprême, on rappelle, c'est le numéro un du régime pour faire simple. Semble avant tout signaler la volonté de maintenir la continuité des politiques de la République islamique, alors qu'Américains et Israéliens tablaient entre autres objectifs sur un changement de régime. Est-ce que Israéliens et Américains souhaitaient vraiment un changement de régime? Du côté américain, c'est pas très clair, mais bon, peu importe. Trump a eu des déclarations contradictoires là-dessus. Il a eu des déclarations qui semblaient laisser penser que Trump voulait la chute du régime, et il y a d'autres déclarations où il a dit qu'il pouvait tout à fait s'accommoder d'un pouvoir religieux, que ça dépendait des gens qui étaient à la tête du pays. Vous pouvez vérifier tout ça en faisant un petit Google sur les déclarations de Trump ces derniers jours. Mortaba Khamenei, qui est-il? Il entretient depuis des années des liens très étroits avec les gardiens de la révolution et les forces de sécurité, explique Merzad Bourougerdi, qui est un politologue spécialiste de l'Iran. Il travaillait au bureau de son père, voilà. Connaît parfaitement, on dirait une petite PME, c'est tout mignon. Il connaît parfaitement les rouages du système et entretient des relations avec un très large spectre d'acteurs politiques et sécuritaires. Pour la continuité de la République islamique, il peut donc apparaître comme une figure utile. C'est mignon. Il a été un peu pistonné quand même, non? Ça commence par un stage à la machine à café, puis ça finit numéro 1 de la boîte. Hein. Dans le communiqué annoncé, la nomination de Mortaba Khamenei comme troisième guide du système... Je me moque, mais je veux dire, c'est un régime politique où le fils succède à son père, ça n'a aucun sens. Hein. La nomination de Mortaba Khamenei comme troisième guide du système sacré de la République islamique d'Iran, troisième parce qu'il y a eu Khomeini, Khamenei, et là c'est Khamenei. L'Assemblée des experts a appelé la nation iranienne à lui prêter allégeance et à maintenir l'unité autour de lui. Peu après, le corps des gardiens de la révolution islamique, qui est une institution essentielle, vous le savez, du régime, a déclaré être prêt à faire preuve d'une obéissance totale et d'un sacrifice de soi pour accomplir ses commandements divins. Parce qu'évidemment, c'est un pouvoir qui vient de Dieu. Parce qu'en fait, le stage vient du papa, à la base. Hein. Mais après, le pouvoir, il vient de Dieu. Pour ceux qui suivent. La télévision d'État iranienne a diffusé des images de liesse nocturne dans plusieurs villes du pays. Lors des frappes du 28 février, Mortaba Khamenei aurait perdu plusieurs membres de sa famille. Il a perdu donc son père, il a perdu sa mère, il a perdu son épouse, il a perdu son fils, il a perdu une nièce, un neveu, une sœur et un beau-frère. Âgé de 56 ans, il est le deuxième enfant d'Ali Khamenei. À 17 ans, il participe à plusieurs périodes de mobilisation au cours de la guerre Iran-Irak. En 99, il se rend dans la ville religieuse de Qom pour poursuivre des études religieuses. Il porte le titre de Hojatul-Islam, rang intermédiaire dans la hiérarchie cléricale chiite. Contrairement à de nombreux responsables iraniens, il n'a jamais occupé officiellement de fonction exécutive. Pourtant, au fil des années, il a acquis une grande influence au sein du bureau de son père, où il s'est imposé comme un homme de l'ombre, discret mais puissant. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit je comprends pas. Vous êtes deux à dire, mais je comprends pas comment il peut ne pas avoir de rancune. Non mais, non, la mort de son père, de sa mère, de sa femme, c'est dans les frappes américaines et israéliennes, les gars. C'est... Non mais, il y a des gens qui ont compris que sa famille avait été tuée par le régime iranien. Non, le père c'est Ali Khamenei, c'est l'ancien Ayatollah. C'est dans les frappes américaines et israéliennes. Juste précise, il y a des gens qui sont partis sur une autre piste là. Mais quand même, il est fort, il a pas de rancune. Non, mais. Non, c'est mort dans les frappes américaines et israéliennes, je. Vous êtes parti sur quelle piste, là? Enfin, la phrase est claire, quand même. Lors des frappes du 28 février, Mortaba Ramanei aurait perdu plusieurs membres de sa famille. Donc, des frappes américaines et israéliennes. Non, parce que j'ai deux personnes qui disent « Non, quand même, le mec, il est fort, il n'a pas de rancune. » C'est l'inverse. Je continue. Donc, homme de l'ombre. Voilà. L'entourage du guide suprême en Iran détient un pouvoir économique considérable, qualifié d'empire par certains médias et observateurs. Voilà. Lors de l'élection présidentielle de 2005, il a été accusé par certains réformateurs d'avoir favorisé par des manipulations électorales l'élection du candidat ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, président de l'Iran de 2005 à 2013. Je vous lis, hein, quand même. Ça, c'est... J'avais compris, lol, je disais que la rancune anti-américaine va être exacerbée. Ah, mais c'était pas ton message, Mister Mecca. Oula. Bon, peu importe. Il est également soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'organisation de la répression des manifestations du mouvement vert en 2009, lorsque des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue pour contester la réélection d'Ahmadinejad, qui n'était pas un guide suprême islamique, hein, qui était le président, qui est dans l'échelle de responsabilité iranienne, qui est un degré en dessous. Il faut savoir que ce sont les guides suprêmes de la République islamique qui choisissent les candidats à la présidentielle. C'est un peu éthique, un petit peu particulier. Les Iraniens ont le droit d'élire qui ils veulent parmi la liste des candidats choisis par le guide suprême islamique. Enfin, c'est une conception un peu particulière de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Cette année-là, des manifestants scandaient « Mortaba, que tu meurs avant de devenir guide ». En 2019, les États-Unis ont imposé des sanctions contre lui, estimant qu'il exerçait une influence politique importante et participait à la mise en place de la répression du régime. Oui, j'avais compris, je disais que c'était chaud de ne pas avoir de rancune après avoir perdu sa famille sous les frappes US et israéliennes. Mais qui vous a dit qu'il n'avait pas de rancune ? Attendez, mais qui vous a dit que Mortaba Ramanei n'avait pas de rancune ? À quel moment vous êtes parti sur cette piste-là ? Je fais une petite pause, je voudrais comprendre. Non, c'est pas de l'ironie, il y a des gens qui m'expliquent ça dans le chat. Non, c'est pas du second degré, non, c'est le premier degré. Je n'ai toujours pas compris. Quelqu'un m'a dit, non mais c'est quand même fou qu'avec tout ça, ils veulent faire la paix avec les États-Unis. Mais qui vous a dit que Ramanei voulait faire la paix avec les États-Unis ? Excusez-moi, enfin, je parle de deux, trois personnes, mais je voudrais juste que vous mélangiez pas tout en fait. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient arrêter l'Iran ? Bah non. Non, ils ont dit que le conflit allait durer très longtemps, on vient de le lire. Ok. Bon, c'est clair pour tout le monde ? Non, Téhéran ne veut pas faire la paix avec les États-Unis. Ok. Continuons. C'est Trump qui cherche une porte de sortie, c'est pas l'Iran. Bon. Continuons. Non, je voudrais être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde, quoi. Sur le plan religieux, parce que c'est très important en Iran, la question est de savoir s'il est ayatollah ou pas, qui est le truc le plus élevé dans la hiérarchie de l'église chiite, quoi. C'est pas très clair. Certains disent qu'il l'est, d'autres qu'il l'est pas. Sur le plan religieux, Mortaba Ramanei était donc jusqu'à sa nomination un Hojatollah Islam. C'est un rang relativement bas. Son père l'était également au moment où l'élite politique a décidé de le nommer guide suprême, en 89. Et Ali Ramanei, Ramanei avait été ensuite élevé au rang d'ayatollah, pratiquement du jour au lendemain, ce qui était un petit peu surprenant d'ailleurs, parce qu'il aurait pas dû, ça aurait pas dû aller si vite, mais bon. Pour Mortaba, ils vont peut-être faire la même chose. Dans son communiqué officiel, l'Assemblée des experts le désigne d'ailleurs déjà par le titre Ayatollah. Bon, c'est un détail, mais c'est à la fois important et pas important. Bien que les positions publiques du nouveau guide suprême restent publiquement inconnues, puisque l'article nous disait qu'il était assez peu connu de la population, sa nomination est largement interprétée comme le maintien, et ça c'est important, du statu quo dans les grandes orientations iraniennes. Le ralliement de toutes les composantes du régime autour de cette figure ne laisse apparaître aucune division à ce stade, alors même que l'un des paris de Trump, c'est que justement des dissensions apparaissent au sein du régime, avec par exemple une partie de l'armée, voire des gardiens de la révolution qui pourraient faire défection et lâcher le régime. C'est l'un des paris de Trump. A priori, pour l'instant, ce pari ne se réalise pas. Voilà. Pour Hamzeh Safavi, analyste politique à Téhéran, Mortaba Ramanei est avant tout celui qui veut poursuivre l'héritage et les principes de l'ancienne République. L'ascension de Mortaba Ramanei marque également un nouveau déplacement de l'équilibre du pouvoir interne en faveur des gardiens de la révolution. Aujourd'hui, la force la plus influente sur les plans économiques et politiques en Iran. Ça, c'est intéressant. Contrairement au fondateur de la République islamique, donc c'était Khomeini, c'était le premier guide, qui bénéficiait du soutien du clergé traditionnel et d'une légitimité révolutionnaire, hein, puisque puisque Khomeini, c'est celui qui était à la tête de l'Iran en 79 après la révolution islamique, ou Ali Khamenei, qui avait été président et disposait d'un soutien politique plus large, Mortaba, lui, ne possède pas de base politique indépendante. Par conséquent, si l'homme survit aux tensions actuelles et parvient à consolider son pouvoir, parce que des luttes de pouvoir et d'influence ne sont pas à exclure quand même en ce moment à Téhéran, l'influence des gardiens de la révolution dans le système politique iranien pourrait s'en trouver encore renforcée. Quoi ? Ok, attends. L'ascension de Mortaba... Non, c'est là. Avant même sa nomination, les menaces israéliennes et américaines contre lui avaient été particulièrement fortes. Dans une interview accordée à ABC News, le président Trump avait déclaré le 8 mars, donc il y a deux jours, que le prochain guide suprême de l'Iran devait obtenir son approbation. Alors, c'est super de le dire, mais réussir à déclarer, quand tu es président américain, que le prochain guide islamique de l'Iran, avant d'être nommé, devait obtenir l'approbation de Trump, c'est quand même absolument pas connaître le régime, quoi. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. S'il ne l'obtient pas, il ne durera pas longtemps, avait-il affirmé. Donc ça annonce les bombes, quoi. Dans un entretien avec le média en ligne Axios, Trump avait également exclu toute coopération avec Mortaba Ramanei, évoquant justement l'éventualité de sa nomination. Les réactions israéliennes ont été encore plus menaçantes. Plusieurs responsables israéliens ont affirmé que toute personne impliquée dans la désignation d'un successeur de Ramanei pourrait devenir à son tour une cible militaire. Ok. Bon, l'intérêt de l'article, c'est ça, c'est que actuellement, à l'heure où on parle, à la tête de l'État islamique, on est dans une continuité, quoi. Il n'y a pas une évolution politique du régime, comme quelque part il y a eu un peu au Venezuela, puisqu'on sait aujourd'hui que la vice-présidente vénézuélienne, devenue la numéro 1 du régime après la capture de Maduro, elle est en place uniquement parce qu'elle a sans doute donné des gages aux États-Unis sur la manière dont le Venezuela allait se comporter par rapport aux États-Unis, et notamment sur la question du pétrole. Voilà. C'est pas ce qui se passe actuellement en Iran, quoi. D'ailleurs, Trump a fait des déclarations en disant « Vous allez voir, ça va se passer comme au Venezuela. » Ça aussi, c'est des déclarations que vous pouvez retrouver. En gros, on va faire comme au Venezuela, on va changer la tête du pays et puis ça va s'arranger. C'est pas ce qui est en train de se passer. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. On va aller sur un petit édito sur la position de la France dans toute cette histoire, cette position un peu complexe de neutralité combative. Est-ce que ça s'est arrangé au Venezuela depuis de bon notaire ? Ben moi, je manque un peu l'article. Voilà, cette bif de dit au Venezuela d'ailleurs, c'est comment maintenant ? Ben, je le regrette, je surveille la presse, je ne trouve pas d'article sur la situation aujourd'hui au Venezuela. Est-ce que c'est un problème de liberté de la presse ? Est-ce qu'on n'a pas de journalistes sur place pour nous informer ? Mais là, je suis très frustré. Mon ami Doki, il faut pas t'informer sur Internet, hein. Il faut pas croire les émetteurs de fake news. Il faut que tu bosses un peu ton sujet. Pour l'exclamation, debunk. Voilà. Les mensonges du rapporteur de la commission sont assez faciles à débunker. Il suffit juste que tu cherches 10 secondes sur Internet. Est-ce que la presse française se fout totalement du Venezuela? Je dirais pas ça, Nel de Jour, mais je manque d'articles. Ouais. Ok. Je voulais un dernier article. Hop. C'est celui qui est à droite, là, c'est l'édito en première page de La Croix sur la position de la France dans tout ça. Sur la position de la France de neutralité combative. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci Lazarus. Merci Christophe. Merci Pounia. Neutralité combative. Jean-Christophe Ploquin, La Croix. La France met les grands moyens pour contenir la guerre qui détruit le Moyen-Orient. Vous savez qu'il y a une... Je ne sais plus quel pourcentage, mais... On a 80, 85, 90% de notre marine qui est actuellement à l'eau, marine nationale. Voilà, avec une, pour le coup, une composante maritime de notre armée qui est extrêmement opérationnelle, qui est à l'eau et qui, bonne partie, est un vecteur dirigé vers la crise qu'on vit aujourd'hui, quoi. En Grande-Bretagne, il y a une polémique parce qu'ils sont incapables de foutre un bateau à l'eau, ça dure une plombe, alors que longtemps la marine britannique faisait la fierté du pays, quoi. Donc là, il y a une grosse polémique en Grande-Bretagne en disant hey, les Français, ils ont 15 000 bateaux à l'eau. Voilà, merci Mr. Little Cat. On a 19 navires principaux de notre marine actuellement à l'eau. Voilà, il n'y a absolument plus rien dans les ports, en rade, etc., en mission. Et les Anglais, ils sont un peu à la rue là-dessus. Et il y a un débat en Angleterre en disant attendez, maintenant, on n'a plus un bateau, quoi. Bah oui, parce que les gouvernements britanniques de ces dernières années, sans doute pour les raisons budgétaires, ont lancé aucune construction de bateaux. Et la marine britannique, hein, qui fut la plus grande du monde aujourd'hui, n'est que l'ombre de ce qu'elle a été, quoi. Je fais une petite parenthèse. Donc oui, la France met les grands moyens pour contenir la guerre qui détruit le Moyen-Orient, c'est vrai. Voilà. Elle déploie une armada en Méditerranée orientale avec le porte-avions Charles de Gaulle, 2 porte-hélicoptères amphibies spécialisés dans la projection de force, 8 frégates, dont certaines en mer Rouge. Emmanuel Macron s'est lui-même déplacé à Chypre, pays européen le plus exposé. Ce dispositif naval impressionnant n'est pourtant pas fait pour intervenir. Je reprends cette phrase plus doucement. Ce dispositif naval impressionnant n'est pourtant pas fait pour intervenir dans le conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et à Israël. Cette guerre n'est pas la nôtre. Le message est martelé à l'Élysée. Elle fait toutefois peser des menaces sur des intérêts importants pour la France, la sécurité des pays de l'Union européenne, liée par une clause de défense mutuelle, la libre circulation maritime, importante pour le commerce et le prix des hydrocarbures, la sécurité de 3 États du Golfe. Nous avons des accords de coopération de défense avec 3 pays qui sont le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, que notre pays s'est engagé à épauler. Et la protection des ressortissants dans la région, bien sûr. On peut y ajouter une attention forte pour le Liban, en tenaille entre le Hezbollah et Israël. Donc c'est pas notre guerre, mais on a des intérêts à protéger et des accords de défense à assumer. Pour pouvoir assumer les responsabilités qu'elle se donne, la France adopte une posture offensive de son action défensive. Mais La Croix se pose une question. C'est juste quelques mots, c'est juste une petite ligne, mais je voulais la partager avec vous, parce que cette petite question, elle est quand même lourde de conséquences. Donc, la France adopte une posture offensive de son action défensive. Elle prend toutefois, c'est le toutefois qui est important, le risque que les belligérants, notamment l'Iran, ne comprennent pas cette neutralité combative. Voilà. Le danger est réel que la guerre rattrape la France, estime La Croix. Je ne sais pas quelle est la pertinence de cette analyse, mais ça fait réfléchir, quoi. Je vous lis. « Alors, Prince semble connaître un petit peu la situation de l'armée britannique, ce qui n'est pas mon cas, et il nous dit, c'est surtout étonnant parce que les Britanniques ont un plus gros budget que nous en matière de défense, mais ils ont moins de soldats, ils sont en dessous dans l'aviation, et dans la marine et dans le nucléaire, c'est à se demander où part l'argent. Bah ça, je n'ai pas la réponse. Fish and chips, peut-être, je sais pas. Non, je sais pas. Merci Kishi. Je Bob, si je devais prendre un abonnement à un journal, lequel serait le plus pertinent pour avoir des news neutres? Aucun. Aucun média n'est neutre. Un média peut te faire croire qu'il est neutre, mais aucun média n'est neutre. Un média a des biais, une histoire, des valeurs, voilà. Assumées ou pas, voilà. Des biais connus ou pas, des filtres intégrés ou pas. Cette neutralité que voudraient certains citoyens et certains politiques, et c'est un attrape-gogo, en fait. La croix a une ligne éditoriale, voilà, que pétrit de valeurs chrétiennes et, pour faire simple, Le Monde est un journal, ses lecteurs le qualifient parfois de journal de centre-gauche, par exemple. Libération est un journal qui se revendique être un journal de gauche. Le Figaro est un journal qui se revendique être un journal conservateur et libéral en matière économique. L'Humanité, c'est un journal qui se revendique communiste. Voilà. L'Opinion, c'est un journal qui se revendique libéral proche des entreprises. Les Échos, bah, c'est un journal qui est plutôt proche aussi des valeurs libérales. Et ça, c'est pour la presse écrite. Et si tu prends les chaînes d'infos, bah, c'est pareil, il y a les chaînes d'infos qui affirment qu'elles sont neutres. Puis en fait, quand tu les regardes, quand tu les consommes, tu vas te rendre compte que, en fait, elles ont des filtres, des biais. La preuve, c'est qu'elles ne présentent pas l'information de la même façon. Et ce qui me gêne, c'est quand justement ça n'est pas assumé. Et comme le dit Pictaro, c'est tant mieux si c'est assumé et pas caché. Parce que ce qui est embêtant, c'est que aucun média n'est neutre. Aucun média n'est neutre. Chaque média va avoir une sensibilité, une couleur qui est liée. Alors si le média n'est qu'une personne qui est liée à la personne, en fonction de son parcours, de ses lectures, de ses réflexions, de ses rencontres, de sa sensibilité, hein, bon, ça c'est assez clair. Et Shelby dit, et ta chaîne, ben voilà, une personne. Et puis quand c'est une rédaction ou une chaîne, ben en fait, la sensibilité va être la somme de toutes ces sensibilités-là, de la rédaction. Voilà. La neutralité, c'est un attrape-gogo. Un média neutre, ça n'existe pas. Après, il y a des biais plus ou moins prononcés. Il y a des médias qui vont tendre vers la neutralité, qui vont, dont la promesse éditoriale, et de tendre vers une forme de neutralité. Ça, c'est possible. Un média neutre, ça n'existe pas. Mais un média qui essaye de tendre vers une neutralité politique et éditoriale, ça peut exister. C'est compliqué de donner une couleur politique aux Parisiens, par exemple. En vrai, c'est compliqué de donner une couleur politique à l'agence France-Presse, par exemple. C'est pas très compliqué de donner une couleur éditoriale à CNews. On peut estimer que France Info aussi, si vous voulez donner une couleur éditoriale ou politique, peut-être que si vous consommez beaucoup France Info, vous allez être en capacité de dire oui, France Info, j'estime que c'est plutôt un peu comme ça, quoi. Après, c'est bien quand c'est transparent. Et le problème, c'est que beaucoup de médias n'assument pas cette subjectivité. Et je trouve que c'est mieux quand c'est transparent. Donc, pour répondre à la question, quel est le journal que tu me conseil parce que ce serait le plus neutre, je n'ai aucun journal consacré parce que ce n'est pas la bonne question. Voilà. Moi j'estime que si je lis tous ces journaux, là, c'est parce que tous me semblent intéressants. Dans ces journaux, aucun ne me semble pas être un journal de qualité. Sinon je ne vous le lirai pas. Voilà. Et chacun a sa ligne. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement d'avoir ces différents regards, différents arguments sur l'actualité et de pas s'enfermer dans une bulle de valeur, une bulle informationnelle, pour qui ne consommerait qu'un seul média. Alors après, Je vois certains débats dans le chat. Tu vois, ah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, le Parisien, je dirais que c'est débatté. Vous avez tous le droit d'avoir un avis sur la ligne éditoriale de tel journal. Mais ça, c'est à vous de vous faire votre avis. Est-ce que tu vas lire un jour Frontières ? Non, non, je dis que je partage des médias de qualité. Voilà. Variez les plaisirs, variez les plaisirs. En plus, on a dit journalisme, en plus. Quelqu'un m'a parlé de Frontières, par le journalisme. Journalisme et qualité. Alors, ça fait deux trucs qui vont pas, quoi. Mediapart, très bien, Mediapart. Abonné, d'ailleurs. À quand tier liste des médias? Mais c'est pas à moi de faire une tier liste des médias, justement. Ma tier liste des médias, vous la voyez tous les jours, puisque il y a ces journaux que je lis tous les jours, qui sont tous les quotidiens nationaux. Voilà. Quelque part, si je vous les propose, c'est que dans ma tier liste, ils sont tout en haut. Moi, j'estime qu'il vaut mieux lire la presse écrite que de s'informer à la télé ou sur Internet. Parce que c'est un média qui prend le temps, qui ralentit un petit peu, qui prend un peu de recul. Donc, vous pouvez estimer que dans ma tier liste, ces journaux sont tout en haut. Voilà. Et puis, il y a des médias que je vous cite jamais, 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 et que je refuse de vous citer. Vous pouvez les mettre, si vous voulez, tout en bas de ma tier liste. Mais c'est pas à moi, petit Samuel Etienne, de vous faire une tier liste des médias. Voilà. Allez, on continue. Je pense qu'on va passer sur les... Oh, ouais, j'ai un article sur les municipales qui est... Enfin, j'ai deux articles sur la politique en France qui sont assez sympas. Voilà. Article suivant. Alors, on en profite puisqu'à partir de vendredi minuit, on ne pourra plus lire d'analyse de la campagne municipale parce qu'on vient... On a passé presque une heure sur le sujet tout à l'heure en intro de la revue de presse et on s'est rendu compte que normalement, la loi électorale interdit qu'à partir de minuit vendredi soir, donc samedi minuit, quoi, entre vendredi soir minuit, interdit de porter à la connaissance du public des sondages, même sur Twitch, ça inclut Internet, des sondages, des articles, des analyses qui pourraient convaincre un électeur de voter pour un candidat plutôt qu'un autre. Voilà. Donc on va être très prudent là-dessus. Mais là, on est mardi, donc on a le droit encore de mettre en avant des articles, des sondages et des analyses. Et justement, là, c'est une analyse. C'est une analyse signée, si je ne dis pas de bêtises, Thomas Legrand, éditorialiste politique dans Libé, et qui dit un truc un peu bizarre. Qui dit un truc un peu bizarre. Qui dit, à Paris, à Marseille et à Lyon, il y a comme un parfum de trumpisme à travers trois listes. Voilà. Celle de Dati à Paris, celle de Jean-Michel Aulas à Lyon et celle de la liste du RN à Marseille. Qu'est-ce que veut dire, je trouve ça un peu curieux comme ça, qu'est-ce que veut dire Thomas Legrand? Ben, lisons cet article et débattons de ce que dit Thomas Legrand. C'est un édito, donc c'est son avis à lui. Un éditorial, c'est un article où un journaliste donne son avis. Et s'il donne son avis, vous avez bien le droit de donner votre avis aussi. C'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. Lisons Thomas Legrand. Les trois plus grandes villes françaises sont dirigées par des alliances socialistes et écologistes. Aujourd'hui, Marseille, Lyon et Paris sont dirigées par des alliances socialistes écologistes. Toutes les trois, lors des élections municipales, sont menacées de passer à droite sous l'effet d'une poussée conservatrice et réactionnaire, d'une facture nouvelle, estime Thomas Legrand, qui par bien des aspects, bon, ça c'est son analyse, par bien des aspects, peut être comparée à certains ressorts du populisme de droite tel que le trumpisme le synthétise. Il ne s'agit pas d'une poussée idéologique cohérente, mais plutôt de l'agrégat d'attitudes politiques basées sur la réaction désordonnée et impulsive aux bilans municipaux de la gauche dans ces trois métropoles qui tentent d'adapter la cité à la nouvelle situation démographique et au changement climatique. On commence par Paris. À Paris, le trumpisme de Dati, bon, moi je suis assez surpris parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un qualifié de Dati de trumpiste. À Paris, le trumpisme de Dati n'est pas un positionnement particulièrement droitier, malgré son allégeance toute carpétienne aux médias du groupe Bolloré, mais plutôt un total affranchissement des codes de la bienséance politique, du respect de la vérité factuelle, comme parmi tant d'autres cette affirmation sur France Inter, selon laquelle, donc Madame Dati aurait déclaré sur France Inter, selon laquelle les gens sans papier, les réfugiés sont prioritaires sur le parc social. Madame Dati aurait dit sur France Inter, les gens sans papier, les réfugiés sont prioritaires sur le parc social. C'est un truc qu'on peut entendre d'ailleurs dans les arguments de certains partis politiques. Et l'éditorialiste nous dit, sauf que les sans-papiers ne sont pas éligibles au logement social. Parce qu'on c'est ce qu'on appelle une vérité alternative. Ce qu'on peut aussi appeler un mensonge. Mais elle l'a dit. Ou ces accusations, sans preuve à ce stade, devant la commission parlementaire sur l'audiovisuel public, la fameuse, s'agissant des méthodes de l'émission complément d'enquête, où elle a affirmé que l'un de ses proches avait été approché par un journaliste tiers proche de complément d'enquête pour lui proposer de l'argent en échange d'un témoignage contre Dati. Voilà. Le présentateur de l'émission, Tristan Vallec, est venu devant la commission pour dire que c'était un mensonge et qu'il en avait la preuve. Et la commission a demandé aux deux, à complément d'enquête et à Dati, d'apporter leurs preuves. On attend que la commission nous en dise plus dans les prochaines semaines. Rachid Dati, comme Donald Trump, estime Thomas Legrand, c'est aussi l'emporte-pièce et le bruit médiatique d'une forte engueule destinée à masquer sa situation judiciaire qui ferait d'elle une édile très certainement démissionnaire à l'automne. Thomas Legrand dit si Dati est élu, il faut qu'elle démissionne à l'automne. Pourquoi ? En effet, le 16 septembre, la maire du 7e arrondissement, et peut-être demain de Paris, doit être jugée pour recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, corruption et trafic d'influence passive par personne investie d'un mandat électif public dans ce qu'on appelle l'affaire Renault-Ghosn. Et elle risque une peine d'inéligibilité. Oui, Nuno, je suis un peu d'accord. Je trouve ça un peu artificiel. Moi, je suis d'accord avec Nuno. Nuno dit « Je suis un peu agacé par ce terme de trumpiste sorti à toutes les sauces pour dénoncer un mal avec parfois un cruel manque de fond ou un trumpisme qui s'appliquerait à tous. » Un politique qui ment pour des raisons électorales, c'est pas du trumpisme, ce sont tous des politiques à la fin. Je suis assez d'accord. Je trouve que il y a un moyen éditorial là, d'écriture qui dit il y a une odeur de trumpisme chez Dati, chez Aulas, dans la liste RN à Marseille. Je trouve ça un peu artificiel. Mais, comme l'article évoque des choses sur le fond, en fait, je trouve le fond plus intéressant que la forme. Je suis assez d'accord. Alors, par exemple, le journaliste dit « De vrais morceaux de trumpisme pur idéologique, cette fois-ci, on en trouve aussi dans la campagne de Sarah Knafo. Avec un climato-déni assumé, l'obsession anti-woke servie par une campagne tiktokisée agressive où son éternel sourire cache mal une ambition carnassière. » À Lyon, alors moi je me suis assez peu penché sur la politique, sur la campagne à Lyon, mais là, si ce que dit Thomas Legrand de ce qui se passe à Lyon, c'est assez grave. À Lyon, c'est un trumpisme de clocher, représenté par Jean-Michel Aulas, plus patelin sur la forme, mais fait d'incompétence abyssale et décomplexée, s'agissant de la conduite des affaires municipales. L'homme d'affaires pro-bagnole peut ainsi proposer des travaux pharaoniques, un immense tunnel sous Fourvière infinançable par la ville, incapable de débattre sans sombrer, incapable de répondre à une interview sans faire apparaître au grand jour sa méconnaissance du moindre dossier, l'ancien patron du foot lyonnais, annule désormais tous les débats, ça pour le coup c'est vrai, je suis allé vérifier, et refuse toutes les interviews. Son inculture politique pour être charitable a même poussé le candidat choisi par la droite lyonnaise à proposer d'afficher en grand sur la façade de l'hôtel de ville le portrait du militant d'extrême droite Quentin Derenck. Alors ça c'est vrai, a priori il semblerait que Jean-Michel Aulas refuse désormais toute interview, tout débat. Merci beaucoup, deuxième cas. Voilà. Et pourrait malgré tout être élu. Et ses adversaires disent, bah oui, tu refuses toutes les interviews, tous les débats, parce qu'en fait, tu ne maîtrises rien, quoi. À Marseille maintenant, c'est Franck Alizio, RN, donc c'est la tête de liste de la liste RN à Marseille, le RN qui pourrait remporter les municipales à Marseille. Qui propose de créer une sorte de passe anti-racaille pour limiter l'accès aux plages publiques qui visent les jeunes des quartiers nord. C'est quoi un passe anti-racaille ? passe. Comment ça marche, ça? Alors. Le candidat RN à Marseille propose un pass anti-racaille pour préserver l'accès à certaines plages aux familles et aux seniors. Je ne confonds pas jeunes et racailles, assure Franck Alizio. La proposition fait pourtant polémique. L'initiative est jugée discriminatoire par des jeunes soutiens de la candidate de la droite et du centre. Franck Alizio, candidat du RN à Marseille, propose de réserver certaines plages de la ville ainsi que des jardins publics. Ah, les jardins publics aussi. À des horaires définis, aux détenteurs d'un pass famille minot senior. Donc, ce serait un pass qui voudrait que les familles, que les personnes âgées ou que les enfants pourraient aller sur certaines plages et dans certains parcs. Et il a donc, je pense qu'il a été interrogé, alors du coup c'est un pass anti-jeune. Il a dit non, c'est pas un pass anti-jeune, c'est un pass anti-racaille. Cette mesure suscite la polémique, blablabla, blablabla. Franck Alizio s'est justifié, je ne confonds pas jeune et racaille. Pour moi les racailles sont ceux qui sont délinquants, ceux qui pourrissent la vie des autres, qui foutent le bordel. Mais comment ça marche son truc? Est-ce que c'est légal ce genre de discrimination? Non, bien sûr, non. Non, non. Vous êtes nombreux à me dire, mais c'est légal ça? Non, il n'y a aucune chance. Ce truc, ça part devant, devant le Conseil constitutionnel, ça saute direct. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Il a précisé que ce dispositif viserait à établir des créneaux horaires pour les familles et les seniors pour qu'elles puissent à nouveau avoir accès aux plages marseillaises. Selon lui, ils sont contraints de quitter Marseille pour aller dans les communes limitrophes. Voilà ce qu'ils jugent insupportable. Les gens qui paient leurs impôts qui sont marseillais ont tout autant le droit que les autres. Quand ils vont dans une plage, ils n'ont pas à être harcelés, à être agressés, à être volés, à avoir de la musique à tue-tête, à avoir des gens qui fument des joints. Mais comment ça, mais il dit pas comment ça fonctionne son truc, c'est surtout ça. J'ai une vidéo là.
Et vous voulez aussi un pass famille mino senior, ce qui est une jolie formule pour dire qu'en réalité vous voulez interdire les plages aux jeunes. Pourquoi?
Ah voilà.
Vous voulez faire ça?
Non, pas aux jeunes. Enfin,
ah bah si, si, on vous a
moi
vu.
Je ne confonds pas. Non, moi je ne confonds pas.
Ça veut dire quoi, famille mino senior?
Moi je ne confonds pas jeunes et racailles. Pour moi, les racailles sont des jeunes.
On sait, on comprend toujours pas pourquoi ça, comment ça marche. Alors, imaginons que je me mets à la tête du candidat. Alors, attention, ne vous me prenez pas, je me mets dans la tête du candidat qu'on écoute. Donc, il vient de dire que ce n'est pas un pass anti-jeune, que c'est un pass anti-racaille. Donc, c'est-à-dire que le pass doit distinguer entre les jeunes et les racailles. Et comment ça fonctionne?
Gens sont...
Et c'est quoi la définition de racaille? Là, on va savoir, il va répondre.
Qui sont délinquants, sont ceux qui pourrissent la vie des autres, sont ceux qui foutent le bordel. Allez voir la définition dans le dictionnaire. Personnes qui sont craintes.
Donc faut venir avec un extrait de casier judiciaire à la plage.
Et c'est un groupe de personnes qui sont craintes par les autres et qui sont peu recommandables.
Bon, c'est ça, l'expression, c'est ça que ça signifie.
L'expression est du président Nicolas
famille,
Sarkozy.
Mino,
elle n'est pas de moi.
C'est Nicolas Sarkozy qui. C'est Nicolas Sarkozy qui. Non, faut pas. Non, sur les histoires de droit, tout ça et de justice, faut pas citer Nicolas Sarkozy là.
Donc ça signifie pas de racaille.
C'est un pass anti-jeune, c'est un pass anti-racaille. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est assez simple.
Ah, j'ai été mauvaise langue. On a les explications.
Il y a des créneaux enfants dans les piscines. Bon, on ne considère pas que c'est que c'est anti-républicain.
Là, on parle de l'espace public.
Il y a
on
des
parle
voitures,
de plages publiques, pas des piscines.
Les piscines municipales sont publiques.
C'est un espace plus restreint. Là, les plages, elles sont grandes à Marseille.
Non, les plages ne sont pas si grandes à Marseille. Vous avez on ne va pas rentrer dans la géographie de Marseille, mais vous avez des plages qui sont toutes petites. Je pense notamment aux Catalans. La plage est toute petite, elle peut très bien être contrôlée. C'est des créneaux horaires pour que les familles et les seniors puissent à nouveau avoir accès aux plages marseillaises aujourd'hui.
Donc les jeunes seront interdits alors?
Les familles et les seniors, pour aller à la plage l'été, ils doivent quitter Marseille, aller dans les communes limitrophes comme Cassis, voire dans le département limitrophe, en l'occurrence le Var. C'est insupportable. Les gens qui paient leurs impôts, qui sont marseillais, ont tout autant le droit que les autres. Et
donc c'est un pass anti-jeune.
quand ils vont à dans une plage, ils n'ont pas à être harcelés, à être agressés, à être volés, à avoir de la musique à tue-tête, à avoir des gens qui fument des joints. Alors, à côté. On...
Ok, bon, moi, j'ai, du coup, alors j'ai pas compris la différence entre passe anti-racaille, pour reprendre le mot, et anti-jeune. Ça ressemble à un passe anti-jeune. Comment c'est mis en place ? S'il veut distinguer, il faut venir avec un extrait de casier judiciaire. C'est bien de faire des propositions, mais à un moment, la première question qui doit suivre une proposition politique, c'est concrètement, comment vous mettez ça en place ? Et là, on a écouté l'extrait, c'est pas très 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 clair. Je reviens à l'article, donc, dans l'IB, à Marseille, c'est donc Franck Alizio qui propose de créer une sorte de passe anti-racaille, bon du coup on a compris le contexte, pour limiter l'accès aux plages publiques qui vise les jeunes des quartiers nord, proposition qui aurait toutes les chances d'être invalidée par le Conseil d'État. J'ai parlé du Conseil constitutionnel, ce serait plutôt le Conseil d'État qui dirait non. C'est Martine Vassal, centre et droite, dont l'inculture politique lui fait dire que ses valeurs sont travail, famille, patrie. Ah oui, je me souviens ça. La Trumpienne Martine Vassal, qui ne s'embarrasse pas de vérité factuelle et peut reprendre allègrement les fake news du média d'extrême droite Frontière, qui avait accusé à tort la jeunesse des quartiers nord de pillage lors des incendies de l'été 2025. Paris, Lyon, Marseille, comme de nombreuses métropoles européennes, sont composées d'électeurs qui avaient majoritairement choisi, donc la dernière fois, la gauche et les écologistes il y a 6 ans pour tenter de faire vivre ensemble une population urbaine très variée et adaptée à l'environnement densément construit aux impératifs liés au dérèglement climatique. Ces chantiers, menés certes avec plus ou moins de finesse démocratique, ont néanmoins déjà d'impressionnantes répercussions sur le cadre de vie et la santé des habitants, mais ils bouleversent les habitudes des transports, insécurisent parfois des commerçants aux activités fragiles. Et si ces chantiers sont très utiles et souvent courageux, ils prêtent aussi le flanc à une caricature facile. Les droites aux portes des 3 plus grandes villes de France, donc Paris, Marseille, Lyon, ne sont plus les droites un brin conservatrice, surtout préoccupées par la paix sociale et la bonne gestion des finances de la ville. Ce sont des droites, estime Thomas Legrand, réactionnaires ou incultes idéologiquement, en pleine panique morale et identitaire, qui fantasment une écologie agressive, noircissent et instrumentalisent le tableau préoccupant de l'insécurité. Ce sont surtout des droites qui mentent sans vergogne. Elles sont d'autant plus menaçantes qu'elles font partie d'une vague mondiale dont les diverses composantes hétéroclites se placent sous le vocal trumpisme. Ok. Je ne suis pas sûr du vocable trumpisme, mais sur le fond, c'est intéressant.
Ok.
Je vous lis, bande de beaux gosses. Je vous lis. Qui me disait ça? C'est intéressant comme question. Lounet, sans soutenir le bonhomme, est-ce que ça vous choque qu'on veuille lutter contre les racailles? C'est pas une histoire d'être choqué, c'est une histoire de... D'abord, comment tu définis racaille? Et une fois que tu as décrété que les racailles devaient être interdites des plages, en tout cas à certains moments de la journée, c'est comment tu les identifies? Comment tu... Un concept aussi flou, a priori, c'est pas marqué sur ton front. Sauf si... On part sur autre chose. Après, c'est pas marqué sur toi, sauf si on part sur autre chose. Mais là, c'est un autre chose. C'est un délit de faciès. Mais comment tu identifies la personne dite racaille? Sur quels critères? Avec quelle pièce d'identité, par exemple? Comment tu les écartes? En fait, c'est la question qui est posée dans ce débat. Défécator résume dans le chat, c'est juste un bon apo à raciste en période d'élection. Apo, c'est les trucs à la chasse, vous savez, pour attirer les, les oiseaux notamment, mais c'est totalement inapplicable. Oui, ben c'est un peu ça en fait. Et quelque part, le populisme, c'est ça. Le populisme, c'est notamment, mais pas seulement, proposer des choses dont tu sais qu'elles vont dans le sens d'une partie de l'électorat, en tout cas de ton électorat, tout en sachant que c'est inapplicable. Voilà. Ce n'est pas la définition unique du populisme, mais c'est l'une des composantes du populisme. C'est flatter un sentiment, une opinion, une idée, en faisant une proposition tout en sachant que le truc est absolument pas applicable, quoi. Voilà pour l'article. Et on a un deuxième article sur la politique et les municipales qui est assez intéressant, qui est dans Le Monde cette fois, intitulé « Un paysage politique fortement droitisé ». Merci Mamiche, merci Lazarus. Qu'est-ce que c'est ? C'est une enquête Ipsos BVA pour le journal Le Monde, donc, le CVPOF et la Fondation Jean Jaurès qui décrit un contexte inédit qui est celui de la droitisation du paysage politique français. Qu'est-ce que ça veut dire la droitisation ? On va voir ça. Le titre m'a un petit peu intrigué et je voudrais comprendre de quoi il s'agit. La campagne municipale touche à sa fin dans cette dans les 34 875 communes françaises, si elle a parfois été percutée par l'agenda national et international, aucune autre élection ne peut prétendre mobiliser en leur nom autant de citoyens, quelques 900 000 candidats, c'est ouf, et 50 000 listes. Ce moment démocratique local, c'est important, plus ou moins à distance des considérations partisanes selon les territoires, s'inscrit dans une ambiance nationale particulière, une ambiance nationale particulière. Si les maires restent une vigie pour les Français, hein, ce sont les élus les mieux considérés par les Français, hein, les élus locaux, en 6 ans, le vent politique a tourné. Les préoccupations écologistes perdurent, voilà, mais reculent dans l'ordre des priorités des personnes sondées. Là où les Verts engrangeaient en 2020 de bonnes opinions, c'est désormais le RN, le Rassemblement National, qui plus que les autres bénéficie d'une présomption favorable. Donc ça, c'est ce que donne cette enquête, ce sondage. Cette année encore, l'enquête électorale française menée par l'Ipsos, BVA, CESI, École d'ingénieurs pour Le Monde, le CVPOF et la Fondation Jean Jaurès, permet par son échantillon de 10 927 personnes, on considère qu'à partir de 1000 personnes, un sondage peut être regardé avec prudence, mais peut être regardé, là c'est une enquête sur 10 927 personnes, inscrites sur la liste électorale par ailleurs, d'analyser en profondeur le paysage politique à la veille des municipales de scrutin avec des marges d'erreur réduites, toutes ces nuances partisanes, sociales ou géographiques. Sondage réalisé en ligne du 27 février au 5 mars 2026. Alors, quels sont les enseignements de cette étude, de cette enquête ? L'étiquette partisane joue peu dans ce rapport, puisque seuls 8% des sondés mentionnent le fait que leur maire est de la même sensibilité politique qu'eux, que le fait que leur maire soit de la même sensibilité politique qu'eux, comme un critère de confiance. Donc, sa confirmation que le vote des municipales est un vote moins partisan que, par exemple, les législatives ou les présidentielles. Ce qui est important, c'est d'abord que le maire soit perçu comme honnête, 64%. Qu'il tient ses promesses, 52%. Plus la ville est petite et plus le maire est consensuel, mais même dans les villes de plus de 100 000 habitants, 6 sondés sur 10 jugent bon ou excellent le bilan de l'équipe municipale sortante. Et 48% souhaitent voir reconduite la majorité sortante. Ce qui explique que parfois les maires restent au pouvoir très longtemps dans certaines villes. De quoi éloigner l'idée d'un cru dégagiste pour ces municipales à venir. Néanmoins, le contexte politique, et donc il y a un néanmoins qui arrive, le contexte politique a changé au cours du mandat des maires sortants. Si au rang des préoccupations nationales, les deux premières restent identiques par rapport à 2020, pouvoir d'achat et système de santé, ok. À la troisième place, l'immigration a remplacé la protection de l'environnement qui passe de la troisième à la huitième place. Et a priori, c'est la même enquête qui a été menée à 6 ans d'intervalle. Voilà. Et les préoccupations sécuritaires ont progressé, y compris au niveau local où elles constituent désormais un sujet déterminant dans le choix du vote. Ce qui est aussi nouveau, la première attente vis-à-vis des prochains maires est qu'ils attirent ou maintiennent les services de proximité un élément stable par rapport à mars 2020. En second, le souhait qu'ils œuvrent à plus de sécurité et de tranquillité publique progresse, 44% des sondés, plus 8 points par rapport à 2020. En 2020, les écologistes avaient le vent en poupe, d'ailleurs ils ont gagné beaucoup de mairies et de grosses villes. À l'époque, près des trois quarts de notre échantillon, 73%, estimaient que ce serait une bonne chose que les écologistes gagnent des sièges au conseil municipal, et 50% approuvaient le fait qu'ils gagnent même l'élection. Cette dynamique a vécu. Les écologistes font désormais jeu égal quant au souhait de victoire municipale avec le Parti Socialiste ou le Bloc Central, constitué par Renaissance, le Modem et Horizon. Et donc vous avez les écologistes qui ont diminué. En revanche, les Républicains et le RN sont les deux partis jugés le plus favorablement pour ces élections. 45% des sondés, voici cette droitisation évoquée par Le Monde, 45% des sondés estiment que la victoire des premiers, les Républicains, dans leur commune serait une bonne chose. 42% pour le RN. Voilà. Ces moyennes occultent un fort clivage selon la taille des villes, frappant pour l'extrême droite. La moitié des habitants de communes de moins de 1000 habitants, donc les petites communes, verraient d'un bon œil une victoire du RN, donc plus que la moyenne nationale, contre un tiers chez les habitants des grandes villes. Alors ça, c'est un fait historique. En moyenne, et ça a toujours été le cas, depuis l'existence du FN préalable au RN, en moyenne, on vote plus pour l'extrême droite dans les petites communes. C'est les moyennes, hein. Ne me sortez pas un exemple en me disant « Ah oui, mais en moyenne, que dans les grandes villes. » La moitié des habitants de communes de moins de 1000 habitants verraient d'un bon œil une victoire du RN. Ils ne sont qu'un tiers chez les habitants des grandes villes. Cette proportion qui traduit une banalisation du RN ne doit pas faire oublier que la plupart des électeurs des petites communes voteront dimanche pour des listes sans étiquette. Voilà. Ça sous-entend quoi ? Bah, à vous d'en tirer des conclusions. Ah ouais, après on part sur l'analyse. Certains vous diront que, paradoxalement, dans les grandes villes où la proportion d'habitants d'origine étrangère est la plus importante, les électeurs votent moins pour les listes d'extrême droite. Et qu'on a des résultats, notamment pour les dernières présidentielles au pluriel, vous avez des petits villages en France qui n'ont jamais vu un étranger de leur vie, où il y a des votes extrêmement importants pour l'extrême droite. Alors, après, vous faites ce que vous voulez de cette analyse qui est, pour le coup, qui est un fait, hein, qui est une analyse des résultats électoraux dans les communes. Après, comment expliquer ça, ça c'est vous qui voyez. Mais ces chiffres traduisent une forte progression du RN dans l'opinion notamment rurale par rapport à 2020, quand 36% des habitants de villes de moins de 2000 habitants voyaient comme une bonne chose une percée du RN dans leur conseil municipal. Même si la traduction dans les urnes reste incertaine, ce niveau d'approbation municipale pour l'extrême droite relève du jamais vu dans notre sondage. Il n'a jamais été aussi haut. Voilà. Il est en cohérence avec les scores nationaux du RN, donc il n'y a pas trop de surprises, avec 31% aux élections européennes, 29% des suffrages exprimés au premier tour des législatives. Hein. Donc ça accompagne aussi les résultats aux élections, c'est pas non plus une énorme surprise. À la veille du 15 mars, donc avant les municipales, un tiers de notre échantillon souhaite ainsi que le scrutin constitue une victoire nationale pour le parti de Marine Le Pen. Sur une échelle gauche-droite allant de 0 à 10, les Français sondés pensent à droite avec une note moyenne de 5,7. Au total, si on rentre dans le détail, 46,7% des personnes interrogées se classent à droite, 14,9% des personnes interrogées se classent au centre, une minorité d'un peu plus d'un quart, 28,2%, se classifie à gauche. Voilà. Et vous avez 10% qui ne se prononcent pas. Je relis cet extrait parce que je le trouve très intéressant. Sur une échelle gauche-droite allant de 0 à 10, les Français sont dépenchés à droite avec une note moyenne de 5,7 et surtout 46,7% des personnes interrogées se classent à droite, 28,2% à gauche, 14,9% au centre. Cette dimension droitière se voit aussi dans le classement des personnalités. Jordan Bardella, s'il continue de susciter le rejet de 51% des sondés, est désormais celui qui totalise le plus de bonnes opinions. 34% devant le numéro 2, Marine Le Pen, qui est à 32%. Et surtout en matière de rejet, Jean-Luc Mélenchon est désormais celui qui en cristallise le plus, 80% des sondés disant ne pas l'apprécier. La classification de la France insoumise par l'extrême gauche, par le ministère de l'Intérieur, confirmée par le Conseil d'État le 27 février, est entérinée par les trois quarts des sondages, des sondés. Par ailleurs, dans le sillage de la mort du militant d'extrême droite Quentin de Ranc, la même proportion, donc on est les trois quarts, estime que le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon attise la violence. C'est une hausse de 6 points par rapport à octobre 2025. Et bien au-dessus du RN, jugé comme participant de cette violence, non pas à 75%, mais à peu près à la moitié. Ce fond droitier, évoqué par Le Monde, de l'ère politique en France, aura des effets les 15 et 22 mars, 15 dimanche, 22 mars le dimanche d'après, mais il est difficile d'estimer leur ampleur. Parce que ça, c'est un coup de thermomètre d'une enquête au niveau national, alors que le sondage des deux dimanches qui arrivent n'est pas un scrutin national, est un scrutin local. Il est difficile d'estimer leur ampleur tant les élections seront diverses selon les territoires, les configurations, les alliances politiques. En la matière, la perspective d'une fusion des listes de gauche au second tour semble largement acceptée par les sympathisants de cette famille, notamment pour empêcher une victoire de la droite ou de l'extrême droite. En la matière, la perspective d'une fusion des listes de gauche au second tour semble largement acceptée par les sympathisants de gauche. Okay. Seuls 16% des sympathisants de gauche refusent cette alliance. Les sympathisants de droite, eux, sont 21% à répugner à une alliance entre la droite et l'extrême droite. Le reste y étant favorable, soit près de 80%. De quoi enterrer encore plus le Front républicain, déjà bien abîmé au niveau national. Tout petit article, mais que je trouve assez passionnant. Je vous lis. Ah, il est bon, j'ai un café au lait. Le matin, après avoir emmené les enfants à l'école, je passe devant une boulangerie, je prends un café au lait. C'est vraiment le petit kiff. Voilà, il m'a tenu jusqu'à midi. C'est un bon investissement. Zazou écrit dans le chat, CNews et BFM sont des médias dangereux. Mes parents qui habitent en campagne les regardent, ça tourne en boucle sur leur télé et plus ça va, plus ils ont peur de tout. Ça m'attriste vraiment car je ne les reconnais de moins en moins. Leurs avis sont de plus en plus teintés de peur et ultra tranchés sans nuance. Et ne se rendent pas compte des techniques de manipulation de ces médias. Texte blanc sur rouge, limite putaclic, 2-3 infos qui tournent en boucle toute la journée, etc. De ouf, c'est pareil pour mon père qui vit à la campagne, me dit Mom Pay Pay. J'ai vu ça chez ma mère aussi, me dit Tenry. Pareil chez ma grand-mère, c'est News en boucle, me dit Rige. C'est un bon journal, Le Monde, Alps. Idem pour mes grands-parents, me dit Nuketi. Schéma classique, malheureusement, me dit Ferrat. Il faut juste arrêter les chaînes tout info, c'est une drogue, me dit Mitsuhiko. Pas de télé, pas de problème, me dit Ventrèche. Pareil chez mes parents, me dit KCV Power. Pareil pour une voisine que je connais qui était pourtant très tolérante et qui commence de plus en plus à se méfier, me dit Fadi Douda. Idem chez mes parents, me dit Snoop Dash. Idem chez mon père, 81 ans, me dit Falline Fantasy. Ah, Zig Zaton se félicite, j'ai réussi à mettre mes parents sur Arte TV de mon côté. Chez mes parents aussi, me dit Melapi. Pareil pour ma cousine et mes grands-parents, me dit Petit Loup. Idem pour ma belle famille, ils deviennent agressifs lorsqu'on tente toute discussion. Pareil pour mon papa, me dit Nat et son chat. Mes parents, pareil, c'est news toute la journée. Aïe. Me dit Don Cervantes. La même dans le Gers. Je me suis même barré d'un dîner car il ne voulait pas éteindre ses news pendant le dîner entre amis. T'as des amis qui te mettent ses news pendant le dîner entre amis? Mais même une chaîne info, peu importe la chaîne info, une chaîne info pendant le dîner entre amis. Mais même la télé même. Ah putain. Change d'amis. Pardon. Pareil pour mes parents, me dit Blist. Mon daron est un énorme gauchiste, j'ai pas ce problème, me dit Somme French. J'ai réussi à mettre mes parents sur Twitch sur la matinée étienne, me dit Arctis, je les embrasse. Les grands-parents de mon chéri vivent dans un petit village dans la montagne. Ils sont passés de gauche à extrême droite. BFM, LCI en boucle du côté d'Eliott. Ok. Bah, merci pour vos témoignages, c'est intéressant. Il me reste un petit peu de temps. Ouais, ça va, j'ai un déj. Attends, je check l'agenda numérique papier du papy. Attends, je mets mes lunettes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? J'ai un déj de boulot. Pour parler d'infos, je suis dans les temps. Après, j'ai une réunion avec l'équipe de MVP parce que demain, un super MVP à 10h avec une petite revue de presse à 8h30, revue de presse d'1h30 demain matin seulement. Soyez là à 8h30 demain matin, 1h30 de revue de presse, 10h MVP, avec notre invité MVP Charlie Head, qui est un mentaliste à midi. Et il y aura un MVP la semaine d'après. Et à 16h15, ah ouais, je vais à des assises du journalisme à Tours. Bientôt, il y a des assises du journalisme à Tours et j'ai accepté de venir de passer une tête. Et donc j'ai une réunion à 16h15 pour parler de ça. Ouais. Donc il n'y aura pas de gaming ce soir, hein. Là, j'ai trop de taf, il faut que je bosse sur MVP. Il y aura pas de game, il y aura mercredi soir, il y aura pas de gaming parce que le lendemain j'ai deux gros tournages. Il y a un monde où jeudi soir il y a pas de gaming parce que vendredi après la revue de presse j'ai encore un gros tournage. Bon, du coup vendredi soir on se butera sur un jeu. On ira sur un nouveau jeu. Ouais, je viens un tour, je pars en début d'après-midi, je reviens en fin d'après-midi parce que je pars en début d'après-midi après la revue de presse et je rentre en fin d'après-midi pour préparer la revue de presse. On est puni, bah oui, mais il faut que je bosse, moi. Ouais, j'ai trois bouches à nourrir, hein. Enfin, ouais. Les petits enfants, là, ça coûte une fortune. Petit enfant, là. 5. Non, mais Hélène, elle se débrouille, hein, Hélène. Hein. Elle se débrouille, hein. Alors, mais il reste un dernier article sur Roblox. Tu ne nourris pas ta compagne? Non, bah, elle se débrouille, Hélène, elle se débrouille. Alors, le projet à la base, c'était que moi, je voulais arrêter de bosser très très tôt pour qu'Hélène bosse, quoi. Alors, je vous cache pas que le projet, il y a 17 ans, c'était ça. C'était. Hélène avait le projet de créer une entreprise. Je m'étais dit, chef d'entreprise, tu vois, elle m'avait dit ça. Business, et je m'étais bien vu, moi, je vais commencer à bien lever le pied, à la maison, un petit peu de sport, tiens, je vais aller au cinéma, et Hélène qui, tu vois, qui charbonne un peu. Bon, finalement, le projet s'est pas fait, et donc, je suis obligé de bosser, quoi. Est-ce que tu vas aller en prison à cause de l'enquête? Pardon, Diamond? Non, c'est ça... Non, je pense qu'il y a des gens qui pourraient aller en prison, ouais, si j'avais du temps à perdre. Peut-être que je le perdrais ce temps, d'ailleurs, en portant plainte pour diffamation. Je vais peut-être le faire, je vais voir. Faut que j'aie du temps. Donc il y a peut-être des gens qui iront en prison, en tout cas qui vont payer un petit peu de thunas et avoir un petit casier, ouais. Si à un moment je décide qu'ils en valent la peine. Non, moi non. Non, tu vas pas en prison quand tu dis la vérité. C'est les gens qui vont en prison, c'est les gens qui inventent des fausses informations, des fake news et qui disent femmes. Je vois ceux qui disent femmes parce que j'ai dit femmes. Ouais. En tout cas, pour ceux qui peuvent être poursuivis en justice, parce que quand tu es élu, tu es protégé par l'immunité parlementaire. Donc, je ne suis même pas sûr que des poursuites judiciaires soient possibles contre un élu. On va se renseigner. Hein. Si j'ai le temps. Franchement, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais si j'ai le temps, on ira peut-être en chercher un ou deux. Pour faire un exemple. Hein? Je vais voir. Faudrait que j'ai du temps. Quoi. Allez, on parle de Roblox. Pour le geste, ouais. Pour le fun. Mais faudrait que je m'en occupe. Ouais, je pourrais mettre quelqu'un dessus. Ouais. Je vais voir. Je suis en train de réfléchir. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Voilà. On va parler de Roblox. Roblox, le jeu vidéo et les inquiétudes, notamment de l'Union européenne, qui estime qu'il y a plein de pédocriminels qui traînent sur Roblox. Voilà, c'est un papier dans le Figaro, qui a d'excellentes pages médias, Figaro, avec des papiers sur Internet aussi. Et voici le titre. Le jeu vidéo Roblox va devoir rendre des comptes à Bruxelles. Vous savez quoi ? J'ai presque envie de faire un... mettre ça sur YouTube aussi. Vous savez quoi ? On va mettre ça sur YouTube. Ouais. Ok ? Je ne sais pas si Mathieu, le PDG de la chaîne YouTube de Samuel Etienne, est là. Mais si Mathieu, si tu es là, je vais te faire un deuxième shout-out. Ok ? 3, 4. Amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans la revue de presse du matin sur Twitch, je voulais aussi mettre en avant cette info pour vous à propos de Roblox, hein, le jeu accusé, notamment par Bruxelles, par l'Union Européenne, mais pas seulement, d'être un repère de pédocriminels. De quoi s'agit-il ? Article dans le Figaro, lisons. Le jeu vidéo Roblox va devoir rendre des comptes à Bruxelles. La plateforme est critiquée pour son manque de protection, de ses jeunes utilisateurs face aux pédocriminels. Vous allez voir, il n'y a pas que Bruxelles qui le dit. Lisons. Et merci dans le chat Twitch. Je vous vois que vous dites bonjour à nos amis de YouTube. Amis de YouTube, n'hésitez pas à dire bonjour à nos amis de Twitch aussi. Tout le monde se dit bonjour. Allez, on se fait un câlin. On les transplateforme ici. Hein. Allez. Lisons Roblox. Lorsqu'il joue à Roblox, j'ai peur que mon fils parle à des inconnus. Cette crainte est d'autant plus vive qu'il a dorénavant une pratique qui vire à l'obsession. Bah, il faut encadrer la pratique du jeu vidéo chez les jeunes, il ne faut pas laisser tout seul. C'est bien qu'on joue au jeu vidéo, mais chez les enfants, il faut encadrer, il faut accompagner, il faut limiter. Dans le collimateur de nombreux parents, comme de cette mère de famille parisienne, la plateforme de jeux en ligne, très populaire chez les enfants, pourrait bientôt se retrouver dans le viseur de la Commission européenne. La plateforme de jeux vidéo américaine est en passe d'être désignée comme une très grande plateforme en ligne, VLOP, VLOP, dans... Donc c'est very large, je suppose, je sais pas quoi, c'est en anglais. Hein. O, c'est quoi ? Very large online platform, maybe ? VLOP, dans le cadre du règlement sur les services numériques, DSA, selon le média spécialisé Context. Ce serait la première plateforme de jeux vidéo à hériter de ce statut de très grande plateforme en ligne de VLOP, jusque-là réservée aux réseaux sociaux. Aux sites d'e-commerce et aux sites pornographiques qui dépassent les 45 millions d'utilisateurs. Very large online platform, c'était ça. Le 13 février dernier, Roblox a en effet revendiqué 48 millions d'inscrits dans l'UE sur 151 millions au total dans le monde. Waouh. Mr. Little Cat écrit « Ma belle-fille, 13 ans, a installé une appli top-top. On a checké son téléphone, elle est en train de parler avec des mecs de 27-52 ans qui demandent des photos. Idem que Roblox, un truc de jeu à la base sans contrôle sur la discussion entre les utilisateurs. » Voilà, c'est ça le problème. Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer de manière constructive avec la Commission européenne alors que nous poursuivons notre engagement à développer une plateforme en ligne sûre, civile, transparente, pour les millions de joueurs et de créateurs que nous servons à travers l'UE. Ça, c'est la déclaration du porte-parole de Roblox au Figaro. C'est une très bonne nouvelle que Roblox puisse être soumis à l'aspect responsabilisant qu'impose le DSA sur la protection des mineurs. Qui dit ça ? C'est Justine Atlan, qui est directrice générale d'une association qui s'appelle e-Enfance. Les obligations rattachées à ce statut, ce nouveau statut donc, et à ces nouvelles lignes directrices sur la protection des mineurs, texte voté en juillet, en matière de transparence, d'audit, d'évaluation des risques vont dans le bon sens. En clair, Roblox pourra désormais faire l'objet d'enquêtes de la Commission européenne en cas de manquement à ses obligations, notamment de modération et de protection des mineurs. Elle pourrait se retrouver à payer des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Ah ! Quand ça commence à taper au porte-monnaie en général, hein, les boîtes commencent à faire attention. Alors Roblox, pour ceux qui ne connaissent pas, lancé il y a une vingtaine d'années, Roblox n'est pas un jeu vidéo traditionnel. Il s'agit d'une plateforme sur PC, mobile, console, qui met à disposition des outils pour concevoir et monétiser ses propres jeux vidéo. Roblox, c'est une plateforme où il y a plein de petits jeux, hein, qui permet aux autres utilisateurs de jouer en ligne à ces jeux. Voilà. Gratuit avec des achats optionnels, Roblox a affiché l'an passé près de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 36% de hausse sur l'année. La plateforme est désormais fréquentée par près de 150 millions de joueurs chaque jour, plus 70% en un an. Près de 40% ont moins de 13 ans. Donc oui, c'est une plateforme qui est plébiscitée par les jeunes, par les enfants. 40% des utilisateurs ont moins de 13 ans. En France, elle est passée de 4 millions de à 6 millions de joueurs en un an. Et en France, 45% des joueurs ont moins de 15 ans. Roblox est confronté à une pression croissante des autorités en raison de la présence de prédateurs sexuels attirés par la forte proportion d'enfants sur ce service. L'an passé, une enfant de 10 ans a même été kidnappée en Californie après avoir rencontré son ravisseur sur Roblox. En janvier, la haute commissaire à l'enfance Sarah El-Airi, c'est quelqu'un qui fait un travail incroyable sur tous ces sujets, a appelé les parents à la vigilance. Roblox, sur Roblox, il y a une quantité au mètre carré de prédateurs. C'est devenu, dit-elle, et c'est quelqu'un d'assez rigoureux et sérieux, Sarah El-Airi, un repère de pédocriminels. De leur côté, les Pays-Bas ont ouvert fin janvier une enquête pour évaluer les risques pour les mineurs. Pour ces raisons, la plateforme est déjà interdite en Russie, au Qatar, en Irak, en Turquie, en Égypte, début février, l'Australie qui interdit depuis le mois de décembre l'interdiction, l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, a convoqué Roblox en urgence sur les risques de pédocriminalité. Aux États-Unis, où près de 75% des enfants âgés de 9 à 12 ans jouent sur Roblox, le Texas et la Louisiane ont poursuivi Roblox en justice. Le mois dernier, c'était au tour du comté de Los Angeles de lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour protéger leur jeune public. Face à la multiplication de ces critiques, c'est fou qu'on n'ait pas vu de papier plus tôt sur cette histoire. Roblox a musclé son dispositif de protection des mineurs, une nécessité face au risque pour sa réputation, notamment auprès des familles. Pendant longtemps, Roblox est resté sous les radars, constate Justine Atlan, c'est peut-être pour ça. De nombreux parents n'avaient pas compris que c'était aussi, pas seulement un endroit de jeu, mais aussi un lieu d'échange avec les mêmes risques que sur les réseaux sociaux traditionnels. La plateforme a annoncé en 2025 de nouvelles fonctionnalités pour renforcer le contrôle parental. Tiens, moi je sais que Malo, là il est dans un arc Zelda, là, Breath of the Wild, exposé cet après-midi à l'école avec deux de ses copains sur Zelda, à un moment il m'avait demandé d'installer Roblox, il y a quelques mois. Est-ce que je peux installer Roblox? Et à l'époque, je lui avais dit, je suis pas chaud. Je sais plus pourquoi je lui avais dit ça. Ouais. Mais je lui ai dit, je suis pas chaud. Donc, on n'a pas Roblox à la maison. Par ailleurs, les utilisateurs ne sont pas autorisés, au-delà du contrôle parental, à envoyer ou recevoir des images ou des vidéos via le chat, ce qui supprime une des occasions de mésusage les plus fréquentes constatées ailleurs en ligne, précise l'entreprise. Surtout depuis le mois de décembre, Roblox a progressivement imposé une vérification de l'âge par analyse faciale afin d'accéder à ces espaces de discussion. Seuls les utilisateurs appartenant à la même classe d'âge peuvent désormais parler entre eux. Un mois après l'entrée en vigueur de cette mesure, Roblox assurait que 45% des utilisateurs avaient été contrôlés. Parmi eux, 35% avaient moins de 13 ans, 38% entre 13 et 17 ans, c'est vraiment très jeune, hein. 27% avaient plus de 18 ans. Depuis la semaine dernière, une nouvelle fonctionnalité à base d'IA permet de reformuler en temps réel les messages sur le chat utilisant des mots interdits. La plateforme le signale aussitôt aux utilisateurs. Après le statut de VLOP, donc Very Large Online Platform, Roblox pourrait déployer prochainement de nouvelles mesures en France afin de montrer patte blanche. Amis de YouTube, si vous avez trouvé cet article intéressant, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce. C'est Mathieu qui gère la chaîne YouTube qui m'a dit de faire ça. Il m'a dit c'est comme ça qu'il faut faire, Samuel. Et vous pouvez même faire un boost. Merci les amis. C'est intéressant, hein. Ce qui est fou, me dit Arti, encore une fois, c'est que des YouTubeurs ont tiré la sonnette d'alarme sur le sujet depuis des lustres. Je savais pas ça. Voilà, ben Abori me dit la même chose. Ça fait quelques années que c'est un fait connu pourtant. Mon fils y joue et je veille de très près pour cette raison. Bravo. Ça m'empêcherait de le priver de ce qu'il aime à cause des gros cons. Bravo à toi. Oui, mais c'est ce que je dis toujours. Comme maintenant, je suis le père de familles nombreuses, puisque officiellement à partir de 3, c'est considéré comme une famille nombreuse. Oui, c'est un truc de... Évidemment que les jeux vidéo, c'est cool. Mais pour un enfant, de manière accompagnée, encadrée, limitée, surveillée, évidemment. C'est dans Le Monde. Non, pardon, c'est dans Le Figaro. Chauny Pampan, c'est page 25 dans Le Figaro d'aujourd'hui, qui est sorti en kiosque ce matin. Si tu vas acheter le PDF, ou si tu vas dans un kiosque aujourd'hui, tu achètes Le Figaro, page 25, tu as cet article. En bas, là. Je trouve l'article vachement intéressant. Anq me dit même que Roblox a banni à de nombreuses reprises des profils dénonçant la pédocriminalité dans des mesures beaucoup plus importantes que celles prises contre les criminels avérés. Et ah, Jacek me dit que l'article est en libre accès sur Internet. Parfois, les articles sont en libre accès, hein, parfois ils sont payants, parce que une information de qualité, ça se paie, mais on vient de me dire que l'article est en libre accès. Merci Jacek. Donc si tu tapes Roblox Figaro dans Google Actus, tu vas trouver l'article gratuitement. Tu n'as même pas besoin de l'acheter. Bravo le Figaro. Vachement intéressant. Roblox est juste la partie connue de l'iceberg. Attention, nous dit OneNum, malheureusement, plein de jeux similaires existent sur les téléphones. Waouh! Waouh. Là, on parle de Roblox, mais en réalité, tous les jeux de type MMORPG, tu veux dire les MMORPG, nous dit Simba, le risque existe. Prenons en exemple WoW, il y a un système de guild, ils ont leur propre Discord, forum, c'est également un risque malheureusement. Après, j'ai l'impression que c'est le nombre d'utilisateurs de Roblox au quotidien. Alors, on parle de... Les chiffres sont fous, hein. Les chiffres sont fous. À un moment, on les avait. C'est des... Voilà. 150 millions de joueurs par jour. Par jour, avec, on l'a vu, la plupart très jeunes, eh bien du coup, ça attire les pédocriminels. Je suis pas sûr qu'on soit sur ces chiffres sur WoW, et je suis pas sûr qu'il y ait autant d'enfants sur WoW. Là, les chiffres des enfants sur Roblox sont gigantesques. Hein, WoW est payant déjà, me dit Lounet, et il y a peu d'enfants. Voilà. Donc je suis pas sûr que la comparaison va et raison. Voilà, faut payer tous les mois pour vous, ça limite tes enfants. Voilà. Hyper intéressant. Le problème, me dit Bardino, c'est la popularité de Roblox chez les enfants du primaire. Exactement. Voilà. Bon, bah, je suis content d'avoir mis cet extrait en avant. Tiens, j'ai les visuels depuis tout à l'heure. Demain, on a un nouveau MVP à 10h sur ma chaîne Twitch, hein, demain mercredi. MVP, ma vie pro, l'émission qui explore les voies pro pour que chacun trouve sa voie. Tu es au collège, tu es lycéen, plutôt que passer ton temps sur Roblox, là, espèce de feignant, tu réfléchis à ton avenir, tu ne sais pas quoi faire plus tard. Eh bien, c'est une émission dans laquelle on parle de métier, de secteur d'activité, de formation, d'orientation. Et le tout dans la détente, parce que c'est pas parce que c'est le sujet sérieux qu'on doit se prendre la tête. Donc j'ai une petite bande de chroniqueurs qui changent un petit peu à chaque émission, sauf Ludovic B, le spécialiste des métiers qui est là à chaque fois. Et là il y a Charlotte, attends, je vous grossis un petit peu, Charlotte Vautier qui nous rejoint, ainsi que Nico Mathieu, dont je crois c'est la première fois Nico Mathieu dans MVP. Voilà, donc ça c'est demain à 10h. À 8h30 il y aura une petite revue de presse, mais d'une heure et demie, il faudra pas la rater, elle sera courte celle-là. Et puis à midi, il y a l'invité MVP avec qui on revient sur sa vie, son œuvre, son parcours. Et étonnamment, c'est Charlie Head qui est un mentaliste. Comment devient-on mentaliste? C'est rigolo. Marrant ça. Nico Mathieu, le GOAT. Ah ouais? Ah! Putain, mais ça valide là. Trop bien, Nico. Nico Mathieu, oh my god. Nico le GOAT. Mais attendez, mais ce garçon a l'air beaucoup plus populaire que moi. Clairement le GOAT. Mais d'où est-ce qu'on invite des invités plus populaires que moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme que c'est cette histoire? Tu sais qui, lui? Désolé, Sam? Ce serait top un jour que tu invites Micode. Mais on l'a déjà invité, Micode. Il est déjà venu. Je vais l'annuler. Il a l'air très populaire, ce garçon-là. Moi aussi, je peux mettre une casquette à l'envers.
Non mais... Moi aussi je peux mettre des casquettes à l'envers. Bon. C'est dingue ça. C'est quoi cette histoire? Ah ouais. Je lui dirai demain qu'il est super populaire. Alors comme ça, demain je vais le recevoir dans MVP. Je viens, ah ouais. Je viens, salut Ludovic, comment vas-tu Ludovic? Ludo, le pilier, il est à chaque fois incroyable, formidable. Charlotte, elle est déjà venue, Charlotte. Hey Charlotte, comment ça va? Bah, c'est pas la première fois, tu viens aussi, toi aussi tu viens d'habituer. Merci de nous rejoindre. Puis après, je dirais... Bonjour Nico. Tiens, t'as pas ta casquette, là? Tu parais que t'es populaire? T'as un petit bonjour comme ça, un petit peu chaleureux. Il y a Vicky là qui dit t'es populaire, vas-y montre. T'es populaire, il paraît que t'es populaire. Ah ouais, vas-y, prouve-le. Je sais pas, il a l'air cool ce mec. Comment ça, il a survécu dans une jungle, je sais pas quoi. Ah ouais. Comment ça? Quoi? En Amazonie? Sérieux? Waouh. C'est un aventurier de fou? Bah, comme moi. Moi aussi, bah. Pas plus tard que. Moi, ça m'arrive de passer le périphérique très souvent. Ça m'est arrivé de passer le périphérique. Parfois, je traverse au feu rouge, à Paris. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, Nico, là? Ouais, qu'est-ce que je fais encore? J'ai survécu à la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public, avec un député militant. Du coup, tout ce que la France compte de personnes désinformées...
Mais oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Ils vont de leur petite phrase. Alors? Bon, alors? Bon, les amis, merci d'avoir été là ce matin, c'était super cool. On se retrouve demain matin pour la matinée Etienne à 8h30, 1h30 dans Revue de Presse, faut pas la rater, tac, 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 à 10h, MVP, voilà, avec que des belles personnes, et notamment Nico, que je suis très heureux de retrouver. Qui est en live, on va faire un raid. Qu'est-ce qu'il fout là, lui, mon chouchou? Oh, c'est mignon. Ils sont cons. Ça n'a aucun sens. Il y a Bailan, Michou et Flamby qui marchent dans la rue. On marche jusqu'au walk. Ça n'a aucun sens. Avec Michou et Flamby, c'est sur la chaîne de Bailan? Ça n'a aucun sens. On y va. Let's go. J'adore. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc de jeunes influenceurs? Bailan. Je sais jamais dans quel sens mettre les Y. C'est bon, je l'ai. Allez, on va voir ce que c'est. C'est la rire. Merci les amis. J'ai failli tout casser. Bonne journée, bon après-midi. Je vais aller manger. Merci pour ce matin, c'était un plaisir. Voilà. Il faut 35 km. C'est beau la France. C'est beau la France. Incroyable. Et je vous retrouve. Ah, j'aimerais bien ce soir, mais ça va être impossible. Trop de taf. Demain matin pour la revue de presse à 8h30. Merci encore. Je lance le raid. Oh merde, ça part.